Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et ravi de vous retrouver pour votre grand journal sur Europe 1. Deux heures d'infos, d'analyse et de découverte avec la rédaction mobilisée et nos invités bien sûr. 18h15, la situation très limitée dans les transports ce week-end. On fait le point dans un instant alors que les syndicats de cheminots appellent à renforcer le mouvement lundi. Message de la CGT à l'antenne ce soir. 18h40, elle se bat pour valoriser la retraite des femmes. La sénatrice Laurence Rossignol nous rejoint. 18h50, une chanson dans la tête.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
On vous parle de la chanson sociale du Front Populaire à aujourd'hui en passant par mai 68 et les anecdotes à la clé de Fabien Lecoeuvre. 18h30, depuis le Salon du Cheval à Villepinte, rencontre avec un cavalier qui concourt au milieu des pros tout en enchaînant trois films cette année. C'est Guillaume Canet sur Europe 1. 19h30, l'œil de Frédéric Dabi, œil expert qui a étudié les grandes différences entre le mouvement social d'aujourd'hui et les grèves de 1995. Voici une partie du programme de ce qui vous attend pour ce 18-20 et on commence d'abord avec le journal, présenté par Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h.
Il dit qu'il ne veut pas aller à l'affrontement. Pour l'instant, il fait tout pour que la mobilisation dure et que les grèves durent. Donc c'est lui qui est responsable de ce qui se passe en ce moment.
La réponse de Philippe Martinez, le patron de la CGT, à Édouard Philippe lors des manifestations des chômeurs et des précaires cet après-midi à Paris.
La grève qui se poursuit à la SNCF, à la RATP, trafic très réduit. Demain, un TGV sur 6, un train de banlieue sur 8 et 14 lignes de métro fermées sur 16.
Les poubelles qui débordent en Corse et les centres de stockage sont à saturation.
Ah bah c'est terrible, parce qu'il va y avoir des rats bientôt, hein. C'est affreux. Puis tous les gens qui passent ici mettent leurs déchets aussi.
Il y a 2 ans, Johnny Hallyday était enterré sur l'île de Saint-Barthélemy. Depuis, quotidiennement, un homme veille sur sa tombe.
C'est très beau, c'est très beau.
Non bah c'est sûr qu'elle est très très bien entretenue pour que ça dure.
On est ensemble jusqu'à 20h, bienvenue à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les principaux syndicats de cheminots maintiennent donc la pression avant les annonces mercredi d'Edouard Philippe qui dévoilera le texte global de cette réforme. Ils ont appelé ce matin à l'amplification de la mobilisation contre la réforme des retraites, Fabienne.
En gros, pas de question de cesser la grève avant le retrait du projet par point du gouvernement, a dit le responsable de la CGT cheminots, qui appelle donc à un renforcement de la mobilisation lundi. Et dans la manifestation de chômeurs et de précaires organisée à Paris par la CGT pour le collectif donc des précaires, cette réforme des retraites était dans toutes les têtes, Jean-Jacques Héry.
Oui, la preuve, hein, voilà ce que l'on pouvait entendre. Voilà ce que l'on pouvait entendre d'abord comme slogan.
Guerre au chômage !
Au chômage !
Guerre au chômage !
Une guerre au chômage, pas au chômeur, qui rapidement s'est transformée pour devenir...
Grève générale !
Tous ensemble, grève générale !
Grève générale, évidemment, pour les 300 manifestants, cela faisait écho au mouvement social actuel contre la réforme des retraites. Précarité, retraite en danger, les deux sont liés pour Juliette Mangin, secrétaire du comité des travailleurs privés d'emploi et précaires de Lyon.
Les personnes précaires vont subir de plein fouet cette réforme-là des retraites parce que les moments où on aura été privé d'emploi seront vraiment plus du tout pris en compte en fait. Il faudra du coup qu'on achète nos points ou alors qu'on prenne des mutuelles privées. Nous ce qu'on dit c'est que le but de cette réforme c'est de pousser vers les minima sociaux, soit le RSA pour tous en fait.
Quant aux promesses de dialogue social du Premier ministre Édouard Philippe, personne n'y croyait dans le cortège, à commencer par Philippe Martinez, oui le secrétaire national de la CGT qui était présent cet après-midi.
Il dit qu'il veut pas aller à l'affrontement. Pour l'instant, il fait tout pour que la mobilisation dure et que les grèves durent. Donc c'est lui qui est responsable de ce qui se passe en ce moment.
Philippe Martinez qui en a profité aussi pour rappeler à nouveau son opposition à un système universel de retraite. L'universalité, ça ne veut rien dire, a-t-il dit. Ce qu'il faut, c'est avant tout un système solidaire.
Jean-Jacques Héry, notez qu'à Nantes, ce sont 2800 personnes qui ont manifesté contre la réforme des retraites et la précarité selon la préfecture. Manifestation tendue, marquée par des heurts avec les forces de l'ordre, avec la présence de 500 radicaux d'ultra-gauche et de Black Blocs.
Et dans un instant, c'est Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la Fédération CGT Cheminots, qui nous en dit plus sur Europe 1. Effectivement, donc, Fabienne, la grève continue à la SNCF et à la RATP ce week-end. Cela se traduit, Caroline Baudry, par un trafic encore très réduit.
Oui, pas d'amélioration en vue dans les transports. Un TGV sur 6 circulera ce week-end. Des lignes TER presque à l'arrêt, puisque 1 ou 2 trajets sur 10 sont assurés, essentiellement par des bus. En région parisienne, la SNCF fera circuler 15% des transiliens. Côté RATP, 9 lignes de métro sont fermées ce soir. Demain, ce sera pire. Toutes les lignes, 14 lignes de métro seront fermées, à l'exception des lignes automatiques 1 et 14. Un service minimum sera assuré sur le RER B et contrairement à la semaine où la circulation était concentrée dans les heures de pointe. Les rames circuleront uniquement entre midi et 18h. Les usagers sont invités à se rabattre sur les bus et les tramways dont plus de la moitié circuleront. Résultat, jusqu'à lundi compris, la SNCF et la RATP recommandent de limiter ou de reporter les déplacements.
Merci Caroline Baudry. Dans l'actualité également de ce 7 décembre, Willy Bardon, il est toujours hospitalisé ce soir à l'hôpital d'Amiens en service de réanimation.
Willy Bardon, c'est cet homme qui a été condamné à 30 ans de prison hier soir par la cour d'assises de la Somme pour le viol, l'enlèvement et la séquestration d'Élodie Kulik, une banquière de 24 ans. Et c'est après l'énoncé du verdict qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en avalant un produit. Et ce soir, Maximilien Carlier, on n'en sait plus sur ce qu'il a ingéré.
Oui, effectivement, c'est du thémic, selon le procureur d'Amiens, un pesticide foudroyant, réglementé. Il est utilisé par des cultivateurs ou horticulteurs. En fait, il permet d'empoisonner les animaux et il se présente sous forme de granulés. Willy Bardon en avait dans sa poche quelques minutes après le verdict. Il en a avalé, puis a bu d'un trait son verre d'eau. Direction l'hôpital ensuite, où il est toujours dans le coma. Alors il y a cette question qui se pose maintenant, comment Willy Bardon a-t-il pu entrer au tribunal avec ce pesticide? Y a-t-il eu un défaut de vigilance? L'accusé comparaissait libre, certes, mais il a été fouillé minutieusement dès son arrivée. D'ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens. D'après son entourage, Willy Bardon voulait en finir en cas de condamnation. Tout au long du procès, il n'a cessé de clamer son innocence.
Maximilien Carlier, notez que ses avocats ont décidé de faire appel de la condamnation de la cour d'assises de la Somme.
Il est 18h05, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Un triste spectacle maintenant en Corse depuis plusieurs semaines, Fabienne. Il n'est pas rare de voir des sacs poubelles éventrés d'où s'échappent des ordures.
Rien à voir avec une grève des éboueurs, Wendy. Si les poubelles corses débordent, c'est que l'île n'a pas la capacité de stockage nécessaire et la situation risque d'empirer car les deux centres pour éliminer les déchets arrivent à saturation. Un bras de fer s'est engagé entre la préfète et l'exécutif de l'île, mené par les nationalistes. Ce sont d'ailleurs des habitants excédés que notre correspondant Frédéric Michel a rencontrés.
Ah bah c'est terrible, parce qu'il va y avoir des rats bientôt, hein. C'est affreux. Et tous les gens qui passent ici mettent leurs déchets aussi.
De Bastia à Ajaccio, de la région de Sartène à la Balagne, partout, des poubelles qui s'entassent. Bien souvent, les sacs sont éventrés, les déchets tapissent le sol. La Corse n'a plus de capacité pour stocker. Si rien n'est fait, le déficit sera de 80 000 tonnes de déchets l'an prochain, 110 000 tonnes en 2021. Josiane Chevalier, la préfète de la région Corse.
On est au pied du mur depuis un certain temps déjà. Moi, j'appelle de mes voeux à une solidarité territoriale pour qu'on arrive, conformément au plan de la collectivité, à pouvoir créer deux autres centres.
Et les besoins sont tels que deux centres supplémentaires ne résoudraient rien. Critiqué pour la lenteur de mise en œuvre de son plan d'action, l'exécutif corse assure que des décisions seront prises, mais que l'urgence est de gérer les 4 années de transition. François Sargentini.
Cette période transitoire, on ne pourra la régler qu'à partir des structures existantes. C'est pour ça que nous pensons, nous, qu'il faut entamer un dialogue avec les communes où sont situées les structures aujourd'hui de stockage des déchets.
Et la crainte pendant cette période de transition, c'est de voir encore se multiplier les dépôts sauvages.
Frédéric Michel, en Corse pour Europe 1.
Il y a 2 ans, Johnny Hallyday s'éteignait dans sa maison de Marne-la-Coquette en banlieue parisienne.
Et c'est loin de là, à plus de 7000 km dans le petit cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy, face à la mer, qu'il avait décidé d'être enterré. Depuis, des fans n'hésitent pas à faire le voyage pour rendre un dernier hommage à leur idole sur une tombe qu'un homme entretient avec soin chaque jour et en musique, comme a pu le constater notre envoyé spécial Pierre Herbulot.
Malgré le soleil torride, les embruns et parfois les pluies torrentielles ou les vents violents, la tombe en marbre blanc paraît presque neuve dans le cimetière qui borde la mer.
C'est magique, c'est la tombe de Johnny. Voilà.
Grâce à celui qui met la musique sur son téléphone, Jean-Pierre, employé par Laetitia qui préfère garder le silence, tous les jours il bichonne la tombe pendant 1 heure. Matin et soir, il frotte le marbre, change les fleurs, aplanit le sable et gère les cadeaux des fans comme celui de Jackie.
Oui, on a apporté un galet également avec nos deux prénoms et la date d'aujourd'hui.
Son galet, Jean-Pierre le met à la place d'un autre déposé quelques mois plus tôt et qui commence à s'effacer. Ce souci du détail ravit les fans de Johnny, eux qui ont traversé l'océan pour lui rendre hommage.
C'est pas jeté n'importe comment, c'est très beau, c'est très beau.
Non, bah c'est sûr qu'elle est très très bien entretenue pour que ça dure.
Pour des gens qui ont duré, ils ont duré de leur vivant, ils ont duré durant leur mort, et voilà, et donc ça a duré.
Elle fait de beau boulot, la Laetitia, c'est bien.
À la nuit tombée, des guirlandes éclairent la tombe, mais pas seulement. Jean-Pierre tient les comptes, ce soir-là, il a allumé sa 50 000e bougie. Sur l'île de Saint-Barthélemy, Pierre Arbulot, Europe 1.
Et puis un numéro pour terminer ce journal, à ne pas oublier, Wendy, je sais que vous le connaissez par cœur, le 36-37. Voilà, pour donner au Téléthon, l'AFM et la recherche ont besoin de vous. Pour l'instant, le compteur affiche près de 27 millions de dons.
Et bien là, on suivra évidemment en temps réel le niveau des dons et on en parlera dans toutes nos éditions d'infos. Merci Fabienne Lemoyle, à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. On vous attend. Voici le ciel, c'est ça Marlène?
Oui, augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
L'hiver est bien installé côté température, Valérie Darmon, et le temps de demain est quasiment le même qu'aujourd'hui.
Absolument, et dans le nord-ouest, après les pluies de la nuit et du tout début de matinée, vous retrouverez un temps très changeant, alternant éclaircies et quelques averses, avec un vent qui va se renforcer en bord de mer. Fort coup de vent d'ailleurs annoncé à 110-120 km/h pour la soirée de ce dimanche et 80 à 100 de l'intérieur de la Bretagne à la Normandie. La perturbation, la nouvelle, qui va arriver demain matin, circulera rapidement, donnant des pluies. Si vous êtes entre les Hauts-de-France et la Champagne, ainsi que sur les Ardennes, et ce front pluvieux est suivi d'un temps variable, avec une alternance d'éclaircies et d'averses dans l'après-midi, parce qu'il est rapide. Il pleuvra aussi en Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes. Il neigera en abondance sur la Savoie et la Haute-Savoie au-dessus de 1400 mètres. Et dans le sud-ouest, vous avez des pluies le matin qui vont se diriger vers les Pyrénées l'après-midi. Les températures sont stationnaires.
Merci Valérie Darmon. À tout à l'heure 18h30 pour faire un nouveau point sur Europe 1. À suivre dans le Grand Journal du soir, Wendy.
La situation dans les trains, dans les RER, dans les métros, la perspective de 3 nouvelles journées de galère pour les usagers. Les grévistes sont très motivés. Vous allez entendre l'un d'entre eux, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Thierry Nier nous répond.
Europe 1, le Grand Journal du soir. Wendy Bouchard.
18h13, la suite du Grand Journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard. Le mouvement social se poursuit avec une nouvelle journée de grève mardi et 3 jours à venir encore difficiles sur le front des transports.
Oui, la direction de la SNCF a communiqué sur une journée de lundi très difficile, notamment pour ses clients. Alors qu'un TGV sur 6 roule ce week-end, un train de banlieue sur 8 demain. Et pour les métros parisiens, seules les 2 lignes automatisées circuleront, les lignes 1 et 14. Bonsoir Thierry Nier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous qui êtes secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Ce matin, vous étiez réuni au siège de la CGT à Montreuil. Est-ce qu'on peut dire que dans vos rangs, Thierry Nier, la CGT, la grève se radicalise ?
Alors non, elle ne se radicalise pas, parce que déjà, ça veut rien dire. Elle se renforce. C'est-à-dire qu'on a démarré un mouvement le 5 décembre d'un niveau important, puissant à la SNCF. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les cheminots sont déterminés, comme l'ensemble des salariés du pays d'ailleurs, à ce que le gouvernement rejette, ne mette pas en place un futur régime à points de retraite. Donc c'est de ça dont il s'agit. Donc il n'y a pas de radicalisation, il y a un renforcement du mouvement qui est clair et qui est affirmé dans les rangs cheminots notamment.
Ça veut dire plus de grévistes à partir de lundi et donc une plus difficile possibilité de réquisitionner le contingent à disposition pour assurer le service minimum ?
Oui, alors il y aura naturellement à partir de lundi certainement un rebond parce qu'on sait que durant le week-end, certains ont voulu jouer sur la bataille des chiffres. Il y a un petit décrochage du fait que déjà il y a moins de cheminots qui travaillent le week-end, donc forcément moins de grévistes. Mais enfin, il y a déjà, enfin, les annonces de ce week-end, c'est 45% pour aujourd'hui. Donc on voit que ça décroche pas tant que ça. Pour lundi, en effet, on s'attend à une remobilisation importante, mais parce que dans la tête des cheminots, comme largement chez les salariés, le projet du gouvernement est complètement il est compris et les salariés demandent à ce qu'ils le rejettent. Donc c'est de ça dont il s'agit. Après, on sait bien que sur la question d'une grève à la SNCF, naturellement, ça péjore les transports. Mais si le gouvernement souhaite que ça ne dure pas, il faut qu'il réponde aux revendications des salariés et des millions de salariés qui étaient en manifestation le 5 décembre et qui le seront le 10 décembre prochain.
Oui, 1 million au moins, 800 000 ou 1 million. En tout cas, vous l'avez entendu, vous êtes bien placé pour le savoir, Thierry Nier, ce discours dans la cour de Matignon d'Édouard Philippe qui refuse la logique de confrontation, qui refuse l'épreuve de force, qui se place, il l'a répété, comme défenseur du dialogue social auquel vous participez dans la concertation. Qu'est-ce que vous lui répondez ce faisant, qu'on ne lâche rien et que le moindre signe de fébrilité jouera en votre avantage ?
Mais de toute façon, il sait ce que dit la CGT, et je crois qu'ils doivent entendre ce qu'ont dit les salariés le 5 décembre et ce qu'ils vont réitérer le 10, mais à un moment donné, il y a des propositions qui sont établies, qui sont mises sur la table.
Ça veut dire, Thierry Nier, c'est pas la peine qu'il présente son texte au Conseil économique et social mercredi ?
Très clairement, les salariés aujourd'hui ils disent, et les citoyens largement, parce qu'il faut quand même souligner qu'il y a un soutien à cette mobilisation, parce que les gens ne veulent pas du futur système à points tel qu'il serait proposé. Il y a aujourd'hui des solutions très simples qui peuvent être mises en place pour pérenniser le système actuel. Mmh. Un système actuel qui, en l'occurrence, pourrait être pérennisé parce que c'est une question de financement dont il s'agit.
Absolument.
Si la question du financement est réglée, il n'y a pas besoin de retraite à points. Cette réforme, elle est idéologique. Elle vise à faire travailler plus longtemps les gens pour les essorer jusqu'à la mort, pour qu'ils travaillent jusqu'au bout et qu'ils gagnent moins. On a des propositions simples. Abaisser le taux de chômage à 7,4%, c'est 10 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses, autant de cotisations pour le système. Augmenter les salaires de 3,5%, c'est 6,5 milliards d'euros qui augmentent les caisses. Pourquoi on dit ça? Quand on sait qu'aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 ont reçu en dividendes au mois de juin de cette année 59 milliards d'euros, il y a de l'argent dans les caisses.
Donc vous refusez, Thierry Nier, une politique de financement.
Établir l'égalité salariale dans les entreprises, qui est d'ailleurs quelque chose qui est revendiqué de façon large, c'est 6 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Exonération, arrêter les exonérations de cotisations patronales, c'est 20 milliards qui rentrent. Les cotisations... Si on fait participer les cotisations de l'intéressement et de système de ces dispositifs de rémunération d'entreprise, c'est 10 milliards.
Donc vous avez, vous entendre, Thierry Nier, pardon, je vous interromps, vous avez un contre-projet.
52 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses pour financer le système actuel. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est préserver, pérenniser, mais on a aujourd'hui des propositions qui sont suffisamment claires et qui sont crédibles.
Est-ce que vous
maintenant,
dites...
le gouvernement fait le choix d'un combat idéologique et il a en face de lui... des millions de salariés et une population qui lui dit « on ne veut pas de votre projet, ça contribue à un élément de projet de société dont on ne veut pas ».
Éric Meyer, votre confrère de Sudrail, disait ce matin sur Europe 1 aux usagers « écoutez bien, c'est quelques jours de galère pour des années de retraite en moins ». Vous poursuivez ce message et vous poursuivez aussi l'idée d'une grève illimitée si le gouvernement refuse de suspendre cette réforme aujourd'hui, Thierry Meyer.
Alors, nous sommes aussi face aux décisions que les assemblées générales prennent. C'est-à-dire que c'est à ces endroits-là que les salariés décident ou pas de poursuivre. Et on leur donne tous les jours la matière nécessaire pour réfléchir et prendre les bonnes décisions pour, oui ou non, poursuivre le mouvement. En l'occurrence, aujourd'hui, les annonces faites et par le gouvernement et la direction de l'entreprise, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un préavis de grève qui pointe 24 sujets liés à la situation dans l'entreprise, notamment liés à l'emploi, c'est la question des cotisations aussi qui fait le lien avec la retraite, la question des salaires, etc. etc. Donc gouvernement et direction aujourd'hui ne répondent pas aux revendications des cheminots en ce qui nous concerne, et plus largement dans d'autres secteurs d'activité qui sont aussi en grève reconductible, parce que on parle de la SNCF, mais il y a d'autres secteurs comme l'énergie, dans la chimie, autour des raffineries, dans les transports urbains, etc., qui sont en grève reconductible, et des entreprises du privé.
Est-ce que vous vous sentez le pouls évidemment des salariés, de vos collègues? L'idée d'une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, après celle de mardi, est possible ce soir, Thierry Nier?
Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, dans les têtes, est ancrée l'idée que ce projet est mauvais. À partir de là, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a pu mettre en avant, des arguments que nous avons mis en avant, qui sont compris par les salariés et plus largement les citoyens. Je pense que mardi, il y aura autant de monde que jeudi dernier.
Merci.
Parce que aujourd'hui, ils ont compris que cette réforme était mauvaise et que surtout, les salariés ont les moyens aujourd'hui de se faire entendre parce que il y a
Thierry.
La question de retraite, mais il y a tout un tas d'autres sujets qui aujourd'hui sont vraiment embêtants dans la vie des gens. La question salariale, la question de l'emploi, la question des services
publics. La question salariale, on y reviendra avec Laurence Rossignol dans quelques instants, c'est l'un de ses chevaux de bataille. Et puis, puisque vous parlez aussi du soutien des Français, on en parlera à 19h30 avec Frédéric Dabi. 56% des Français disent avoir de la sympathie pour votre mouvement. Merci Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Ce sont des chiffres
beaucoup,
en effet établis. Merci.
18h20, Christophe Lamar nous a rejoint, Wendy.
Et oui, car il est question de sport dans un instant. L'actualité des sports avant notre entretien avec Laurence Rossignol sur Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
L'actualité des sports avec Christophe Lara. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Wendy.
Et pour commencer ce journal, le foot, 17e journée de Ligue 1 et Montpellier qui affronte le PSG. Le match a lieu en ce moment.
Le PSG qui ne réussit jamais très bien à Montpellier, pas la moindre victoire depuis 4 ans. On retrouve Romain Boselli, l'un de nos correspondants au stade de la Mosson. Romain, les Parisiens ont-ils enfin trouvé la clé face au Montpellierin? Je crois que c'est la mi-temps.
Eh bien toujours pas, parce que c'est la mi-temps effectivement ici à la Mosson. Et c'est bien Montpellier qui est devant à la pause. 1-0 pour les joueurs de Michel Derzakarian sur un but de Paredes contre son camp. Une tête de Congrès déviée dans son but par l'Argentin qui a trompé Keylor Navas à la 41e. Le PSG qui a du mal décidément dans ses confrontations. Vous l'avez dit, ici à la Mosson, ils n'ont plus gagné depuis 2015 et ils sont encore en difficulté en cette fin d'après-midi. Et les pépins physiques s'accumulent pour le PSG. Kimpembe et Gueye sont sortis sur blessure. Les Parisiens sont bousculés très clairement. 1-0 pour Montpellier. Et le trio Neymar, Icardi, Mbappé a été très discret. Ils n'ont quasiment pas inquiété à la défense montpelliéraine. 1-0 pour les Héroltais.
Romain Boselli en direct du stade de la Mosson. Romain que l'on retrouvera dans le journal des sports de 19h.
Quatre autres matchs également au programme de cette 17e journée aujourd'hui.
Ils débuteront tous à 20h et vous pourrez les suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir. Monaco-Amiens, Nice-Metz, Rennes-Angers et Strasbourg-Toulouse. On rappelle qu'hier soir, Lille a battu Brest 1-0. Les Lillois sont sur le podium. Et Lyon s'est rassuré sur la pelouse de Nîmes. Victoire 4-0 des Lyonnais face à des Nîmois réduits à 9.
Lyon, on en parlera. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Dans Europe 1 Sport à partir de 20h sur Europe 1. Et notamment de celui que vous surnommez le Neymar lyonnais, meilleur joueur de Ligue 1 du moment.
C'est la question qu'on va se poser. Il s'agit de Memphis Depay. C'est un international néerlandais, un joueur extrêmement talentueux, parfois un peu intermittent du spectacle, sauf que depuis ce début de saison, il est très fort, très régulier, même s'il a été blessé. Quand Lyon joue avec lui, Lyon va beaucoup mieux. Et c'est une très bonne chose, évidemment, pour la Ligue des Champions, notamment cette finale de groupe contre les Allemands mardi prochain. Et là, contre Nîmes, hier, il a marqué 2 buts. Il en est à 13 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis qu'il a le brassard de capitaine, que Rudy Garcia lui a confié le brassard de capitaine, il a pris ses responsabilités. Il faut profiter de ce joueur, Wendy, car cette saison, il est encore en Ligue 1. La saison prochaine, il partira sans doute à l'étranger dans un plus grand club.
Zoom sur cette personnalité à partir de 20h. Merci Lionel Rousseau. L'étranger, on en parle avec du foot toujours, Christophe Lamar.
En Angleterre, Chelsea s'incline 3-1 sur la pelouse d'Everton, pourtant très mal classé. En revanche, tout va bien pour le leader de la Première Ligue, Liverpool, qui a battu Bournemouth 3-0. En Espagne, le Real bat l'Espagnol Barcelone 2-0. But signé Raphaël Varane et Karim Benzema. Et puis en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach est désormais seul aux commandes de la Bundesliga après sa victoire sur le Bayern Munich 2-1.
Quelle maîtrise de l'allemand. La Coupe d'Europe de rugby maintenant.
Pourtant,
une première pour Lyon. Bah non, mais ça se sent bien en tout cas.
On en était où? Bah oui, au rugby.
La première pour Lyon au rugby, oui.
Mais oui, le Loup s'impose face aux Italiens de Trévise 28-0 avec le point du bonus offensif en prime. Un succès qui met un terme à une triste série. Wendy, les Lyonnais restaient sur 8 défaites consécutives en Coupe d'Europe.
Alors on parle du biathlon maintenant, Coupe du Monde. Depuis bientôt une heure, les 3 ou plutôt les 4 mousquetaires français se relaient sur la piste.
Le relais 4x7,5 km d'Östersund en Suède, toujours spectaculaire. La course est partie depuis 17h30 et un relais français qui a de l'allure. Il est composé des 4 biathlètes qui ont raflé les 4 premières places de l'individuel mercredi. Émilien Jacquelin, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade partent favoris du relais masculin. Mais attention, ce carré d'as imbattable peut aussi éventuellement passer au travers. C'est ce qu'expliquait juste avant la course Martin Fourcade.
On fait partie des équipes favorites, c'est sûr. Mais on garde vraiment en tête que c'est aussi toutes les étoiles et toutes les performances qui sont alignées le même soir. Et que ça démontre certes un niveau d'ensemble de l'équipe, mais ça démontre aussi une belle réussite collective au même moment. Et je pense que aucun de nous s'enflamme là-dessus en pensant qu'il va y avoir une domination sur la saison et encore plus sur les relais. On connaît trop bien notre sport pour savoir que ça tourne très vite.
Et ça tourne très vite, mais pour l'instant, ça tourne plutôt en faveur de l'équipe de France qui est deuxième derrière la Norvège alors que l'on vient d'entamer le dernier relais.
La saison de ski freestyle qui vient de débuter maintenant.
Oui, première étape en Finlande et premier succès pour Perrine Laffont. La Française championne olympique avait survolé la saison dernière. Elle est peut-être partie sur les mêmes bases.
Merci Christophe. À tout à l'heure, 19h pour la suite de l'actu sportive et les matchs en direct.
Et oui, à suivre le rappel des grands titres de l'info de ce samedi. Un petit coup d'œil sur le ciel et puis on refait l'actu.
Avec une femme politique qui lutte aujourd'hui pour une meilleure retraite pour les femmes. Elle s'appelle Laurence Rossignol, elle est sénatrice. Et puis nous serons depuis le salon du cheval de Villepinte avec un cavalier en or. Il s'appelle Guillaume Canet. Il est évidemment acteur, réalisateur et aussi passionné d'équitation. A tout de suite.
Il est 18h30, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et pour ceux qui nous rejoignent, voici, chers amis auditeurs, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Week-end noir dans les transports pour protester contre la réforme des retraites. La RATP prévoit un trafic toujours extrêmement perturbé demain. Aucun RER sur la ligne A, très peu sur la ligne B. Et 14 lignes de métro sur 16 fermées dimanche, 10 lundi. 50% des bus et 2 tramways sur 3 en circulation. Trafic également perturbé à la SNCF avec un TGV sur 6 et seulement 15% des intercités. Les syndicats de cheminots réunis en intersyndicale aujourd'hui ont appelé à durcir le mouvement avant la prochaine grosse journée de mobilisation mardi. Aujourd'hui, des manifestations à travers la France de la CGT contre la précarité des Gilets jaunes, acte 56, avec dans certaines villes une convergence des luttes. Des heurts également entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Paris et Nantes où des Black Blocs étaient présents dans le cortège. Willy Bardon est toujours en réanimation mais son état se stabilise. Il a tenté de se suicider hier soir à l'énoncé du verdict de la cour d'assises de la Somme en ingérant un produit. Il a été condamné à 30 ans de prison pour l'enlèvement, le viol et la mort d'Élodie Kulik en 2002. Un militaire français grièvement blessé au Mali. Son véhicule blindé a été frappé par un engin explosif. C'est ce qu'a annoncé ce soir l'état-major des armées. L'homme sera évacué vers la France dans les prochaines heures. Et puis Mayotte menacée par le cyclone Belna. Il se rapproche de l'archipel et le département a été placé en alerte orange.
Merci Sophie, à tout à l'heure pour le journal de 19h. Petit point météo avec de la pluie encore demain dimanche sur les trois quarts du pays, Valérie Darmon.
Absolument, dès ce dimanche matin, on a une nouvelle perturbation qui provoque des pluies sur les deux tiers de la France. Elle s'accompagne d'un vent sensible qui va se renforcer au fil des heures et dans l'après-midi, la perturbation atteindra les régions les plus au sud, même les bords de la Méditerranée où vous connaîtrez quelques faibles pluies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et à l'arrière, vous retrouverez un temps instable avec des averses dès le matin en Bretagne. Dans la soirée, prudence si vous vous trouvez en bord de Manche à cause du renforcement du vent. Et les températures, elles sont stationnaires. L'après-midi, entre 12 au nord et 13 au sud.
Merci Valérie Darmon. On refait l'actu sur Europe 1 avec une revendication forte, Wendy Bouchard, entendue dans les manifestations jeudi dernier, le sujet de la retraite des femmes.
Oui, sujet évoqué il y a quelques instants d'ailleurs par le secrétaire général de la CGT que nous avions en ligne. Vous étiez-vous dans le cortège à Paris pour défendre ce dossier comme femme politique et comme présidente de l'Assemblée des femmes? Bonsoir Laurence Rossignol.
Bonsoir.
Et voici l'inégalité dont nous parlons ce soir. Vous vouliez réagir déjà ?
Non, allez-y.
Ce sont les retraites des femmes qui sont inférieures, Laurence Rossignol, de 42% en moyenne à celles des hommes. C'est l'un des systèmes les plus défavorables en Europe. Il n'y aurait donc pas urgence à en sortir de ce système actuel, Laurence Rossignol ?
Bien sûr qu'il y a urgence à en sortir, mais les retraites des femmes sont le résultat des carrières des femmes. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les femmes ont des retraites si faibles, c'est parce que beaucoup se sont arrêtés de travailler, soit pour élever leurs enfants, soit pour s'occuper de la maison, soit parce qu'elles ont été des conjointes de professions libérales aussi, elles n'ont pas été déclarées, elles n'ont pas été salariées. Et puis les femmes sont aussi cantonnées dans les métiers à temps partiel, les emplois à temps partiel, ou dans les métiers les moins rémunérés. Alors il est sûr que quand on passe 40 ans à être payé moins que les hommes, à travailler moins longtemps, d'avoir des semaines à temps partiel, eh bien, au moment de la retraite, tout ça se retrouve et donne des retraites faibles. Et effectivement, une bonne réforme, c'est une réforme qui prendrait ça en compte. Et celle que propose le gouvernement ne va faire que poursuivre l'existant pour les unes, voire même en raison de divers mécanismes de bonification pour enfants qui seraient soit supprimés, soit répartis entre les deux parents, les femmes vont soit voir leur retraite amoindrie par la réforme, soit il n'y aura pas de changement pour elles. Donc ce n'est pas la réforme que les femmes attendent.
On a un problème de compréhension quand même. On a à la fois l'Institut de protection sociale sur lequel s'appuient notamment vos arguments, qui est très négatif, qui considère qu'un certain nombre de femmes vont encore être pénalisées par cette réforme. Et puis de l'autre côté, on a une secrétaire d'État que vous connaissez, qui est en charge de l'égalité femmes-hommes aujourd'hui, qui annonce au contraire que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme qui est en train de tricoter le gouvernement. Qui croire aujourd'hui, Laurence Rossignol? On n'est pas dans les chiffres, nous sommes des auditeurs et les femmes sont à l'écoute.
Non mais ça c'est proclamatoire de raconter que les femmes seront les grandes gagnantes, il n'y a pas un élément factuel qui permet de l'étayer et de le prouver. Il faut réfléchir autrement. On va changer l'angle de vue.
Oui.
Les femmes sont majoritaires chez les fonctionnaires aujourd'hui. On sait que la fonction publique...
62%. Hein.
62%. D'ailleurs, je précise que plus on monte dans la pyramide de la fonction publique et vers les postes de hauts fonctionnaires, moins il y a de femmes. Hein, s'il en va de la fonction publique comme beaucoup d'entreprises, les femmes sont majoritaires à la fonction publique. Demain, avec la réforme, et le gouvernement le reconnaît d'ailleurs en ce qui concerne particulièrement les enseignants, les retraites vont baisser. Donc là où les femmes sont nombreuses, les retraites vont baisser. Donc les femmes sont déjà impactées en tant que fonctionnaires. Et puis pour les autres, celles du secteur privé, celles qui ont eu des carrières à trous, comme on dit.
Une carrière hachée, oui.
Des carrières hachées, des beaucoup de temps partiel, des faibles cotisations. Un euro cotisé pour un euro de retraite, ça ne va pas faire beaucoup de points à l'arrivée non plus quand on n'a pas travaillé dans les mêmes conditions, qu'on a été moins bien payé. Tout ça n'a pas d'impact. Donc, on ne peut pas dire, comme le fait le gouvernement, que les femmes vont être les grandes gagnantes. La complexité de la compréhension de cette réforme, c'est qu'il doit y avoir bien quelques gagnants et quelques gagnantes que le gouvernement met en exergue. Ils existent probablement, mais ceux-là elles ne seront pas le plus grand nombre. Et de toute façon, ce serait quand même injuste de se contenter d'une réforme en disant, voilà, il y a les gagnants. En fait, il y aurait les premiers de cordée de la réforme des retraites et puis tous les autres derrière qui seraient soit pénalisé, soit ne va rien changer.
Bien sûr,
eux.
Mais Laurence Rossignol, vous êtes aussi dans l'opposition, vous êtes sénatrice de l'Oise, vous avez bien entendu Gérald Darmanin le redire, rien n'est écrit, donc difficile de reculer, dit-il, comme ministre sur une réforme dont on ne connaît pas encore les contours. Vous avez, vous, entre les mains, justement, des éléments qui vous permettent de démontrer aujourd'hui votre inquiétude ?
Ce qu'on a comme élément aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement appelle l'architecture. Et de toute façon, la méthode est quand même troublante et elle engendre l'anxiété des Français et le contexte social dans lequel on est aujourd'hui de contestation. Ça fait presque 2 ans que les syndicats discutent avec le gouvernement et puis rien n'est jamais clair et précis. Rien n'est sur la table de manière concrète. Le gouvernement bouge. Alors, un jour, il nous dit que, par exemple, non, les fonctionnaires ne souffriront pas de la réforme. Puis ensuite, ils disent, ah oui, mais pour les policiers, on va faire quelque chose à part. Ça veut bien dire que s'il y a des mesures spécifiques qui sont prévues dans le projet du gouvernement pour les policiers, c'est donc que ça impacterait négativement les autres. Mmh. Et puis après, on nous dit, ah, mais pour les enseignants, on va trouver un système et il y aura des différences de rémunération entre les enseignants selon leur année de naissance. On n'arrive même pas à imaginer comment une telle usine à gaz peut se mettre en place. C'est-à-dire que si vous êtes né en 77, vous aurez un salaire de X, et si vous êtes né en 63, vous aurez un salaire de 2X. Ça n'a pas de sens. Donc le gouvernement est responsable de cette confusion. Il faut maintenant qu'il mette un projet de loi sur la table. Un projet de loi, c'est-à-dire que c'est un document qui est écrit, précis et clair, et qu'on discute sur la base du projet de loi. Et il faut qu'il cesse de nous promener comme ça et d'entretenir l'inquiétude et la confusion comme il le fait. Ce n'est pas une bonne méthode de gouvernement, à mon sens.
Alors, on devrait avoir le résultat des concertations, je le rappelle aux auditeurs, lundi. L'exposé au Conseil économique et social mercredi de ce texte, avant discussion au Parlement en janvier. Laurence Rossignol, vous qui êtes présidente de l'Assemblée des femmes, je redonne ce chiffre aux auditeurs. Les retraites des femmes inférieures de 42% en moyenne à celles des hommes, ce qui fait que pour près de 20% d'entre elles sont contraintes de travailler jusqu'à 67 ans, contre 10% pour les hommes. Que pensez-vous de cette proposition qui est issue du rapport Delevoye sur la revalorisation du minimum de retraite, c'est-à-dire qu'aucune femme avec carrière pleine ne pourrait toucher désormais moins de 1 000 euros par mois.
C'est une bonne proposition. Je ne sais pas si c'est une position. Je n'ai pas compris s'il s'agit d'une retraite à taux plein ou s'il s'agit du minimum vieillesse. Je n'ai pas compris si c'est une prestation contributive ou une prestation sociale.
Oui.
En tout cas, garantir à chacun ou à chacune d'ailleurs un minimum à vivre de 1 000 euros ou un peu plus de 1 000 euros par mois me paraît être une bonne proposition. Il faut nous expliquer comment elle est financée, mais moi je ne suis pas suspicieuse là-dessus.
Mais c'est la société que vous voulez, en tout cas. Oui.
Voilà, et c'est une bonne proposition. Mais ceci dit, les femmes aspirent à autre chose que d'être continuellement au minimum de tout en matière de rémunération. Mmh. Le minimum, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est des retraites décentes qui prennent en compte leurs interruptions de carrière. Il faudra penser 2 systèmes. Un système pour quand l'égalité professionnelle sera là et garantira des bonnes retraites à chacun. Et puis un système de compensation pour celles qui sont encore dans les années à venir pas bénéficiaires d'une égalité professionnelle qui se fait quand même aussi beaucoup attendre.
Merci Laurence Rossignol. Vous serez dans la rue de nouveau mardi avec ces femmes, ces travailleuses, ces retraitées.
Écoutez, probablement, j'étais à la manifestation cette semaine et j'étais vraiment très touchée de voir autant de jeunes, autant de femmes dans la rue. Et c'était une manifestation sur la réforme des retraites, mais aussi sur la précarité. Beaucoup de jeunes, c'est la première fois que je vois des jeunes se préoccuper autant de la question de la retraite. Auparavant, on disait que les sujets de retraite n'étaient pas des sujets qui mobilisaient les jeunes. Cette fois-ci, c'est la grande différence. Les jeunes se sentent très concernés par tout ce qui se joue en ce moment.
Merci Laurence Rossignol pour ces mots sur l'antenne d'Europe 1. Sénatrice de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes et ancienne ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Merci.
Merci à vous.
18h41. Si vous êtes passionné d'équitation, il faut rester absolument avec nous, Annie Bouchard.
Restez avec nous. Depuis le salon du cheval à Villepinte, nous retrouvons Guillaume Canet qui concourt dans des épreuves de saut d'obstacles au niveau professionnel. C'est quelque chose, hein, et il nous parle de son rapport à l'animal et à la compétition.
18h-20h, Wendy Bouchard.
Jusqu'à 20h, vous écoutez le Grand Journal du Soir avec Wendy Bouchard. C'est l'heure maintenant de l'interview découverte sur Europe 1. Vous recevez ce soir, Wendy, un passionné d'équitation.
Il partage sa vie en effet entre deux passions, le cinéma et le cheval. Depuis son adolescence, Guillaume Canet concourt dans des épreuves de saut d'obstacles et en ce moment, au milieu des meilleurs cavaliers du monde, depuis jeudi, à Villepinte, au Longines Master. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Ah, on connaît évidemment l'acteur, le réalisateur, mais vous avez vu aussi et vécu beaucoup de choses ces dernières heures au Salon du Cheval à Villepinte. Je peux vous demander l'image là, que vous avez en tête au moment où on se parle?
Oh, l'image, ah bah, c'est mon ami Thierry Rosier là, qui a fait troisième de l'épreuve, avec qui j'ai monté et qui fait des résultats magnifiques en ce moment et qui va, j'espère, aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Je lui souhaite en tout cas, parce qu'il est en train de se préparer pour et pouvoir être dans l'équipe. Et comme c'est une famille qui a déjà vécu des choses magnifiques entre Marcel Rosier, son père, et son frère Philippe Rosier, qui ont été tous les deux médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et là, je vois que ça paye pour lui et c'est formidable, quoi.
Moi, j'ai plusieurs images de vous, Guillaume Canet. Notamment, j'ai pu suivre ce matin l'un de vos parcours. Son débarre de combien vous avez sauté ce matin? 1m40 à peu près?
C'est vraiment niveau professionnel, en fait. Moi, je suis amateur, mais eux, c'est que des pros. Et c'est des parcours à 1m45.
Mais c'est niveau professionnel.
Ouais, c'est, j'ai une licence professionnelle et tout ça, mais bon, je suis amateur. Dans le sens où moi je monte pas tous les jours et c'est vrai que je monte avec des cavaliers qui eux montent 10 chevaux par jour et s'entraînent toute la semaine et montent tous les week-ends. Et que moi, autant il y a 2-3 ans, ça allait, j'arrivais à combiner un peu les deux, mais là cette année ça a été très difficile pour moi parce qu'avec les trois films qui sont sortis, Nous finirons ensemble au nom de la Terre et la Belle Époque avec la promo, la
Évidemment.
Presse, la pression, tout ça. J'ai pas le temps de m'entraîner, donc en fait je viens monter directement en concours. Mais là aujourd'hui, voilà, j'étais pas dedans, j'ai pas la tête totalement à ça. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, n'importe quelle petite erreur est fatale en fait. Donc j'ai préféré faire une volte et faire un tour avant de revenir sur ce dernier obstacle parce que c'était, j'étais pas dedans, quoi. Et voilà.
Bah oui, on vous a senti calme avec votre monture quand même, mais vous êtes vraiment dans cette cour des grands. Il faut savoir que les Longines Master, dont Europe 1 est partenaire, c'est une des compétitions les plus importantes du monde, qui met en scène les meilleurs cavaliers du monde, les meilleurs chevaux de concours en CSO aussi. Quand on n'est pas complètement avec sa monture, quand on fait pas totalement corps avec son cheval, voilà, on fait des petites fautes qui font la différence avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de fusionnel et de télépathique.
Hein. Ah oui, totalement. Et puis physiquement aussi, c'est-à-dire que c'est des gros sauts, c'est des gros efforts. Je pense que j'accuse aussi la fatigue de la fin de l'année avec tous ces films, et puis notamment Au nom de la Terre, qui a été un film très émouvant à faire, à porter, et que je continue d'ailleurs à porter, puisqu'on a été présenter le film à l'Assemblée nationale, au Sénat, bientôt au Parlement européen. Mmh. Et que voilà, c'est un film qui a dégagé beaucoup d'émotions, parce que de témoignages, de rencontres avec des agriculteurs en détresse. Et je crois que ça m'a beaucoup atteint. Je suis un peu en redescente un peu de tout ça.
Les éleveurs de chevaux, de races très fameuses, très réputées, sont présents au Salon de l'Agriculture. Ils vous interpellent aussi sur cette prestation et ce film aux 2 millions de spectateurs, donc Guillaume Canet.
Oui, d'ailleurs, ce matin, j'ai croisé le chef de piste, en fait, qui était constructeur de l'épreuve de là ce matin,
oui.
Qui est venu me voir avec les yeux très émus et qui m'a dit, voilà, je suis aussi agriculteur et mon fils a pleuré tout le long du film et c'est vrai que l'échange qu'on a eu tous les deux à chaque fois pour moi est extrêmement touchant parce que c'est vrai que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur et voilà et c'est vrai que le milieu du cheval c'est un milieu aussi de gens du milieu rural et donc il y a effectivement beaucoup de cavaliers d'ailleurs qui sont agriculteurs parmi même en Angleterre la famille Whittaker quand on voit John Whittaker chez lui c'est dans son tracteur et de toute façon on est tous de près ou de loin liés à l'agriculture. En tout cas, on a tous une assiette devant nous et on est tous concernés en fait par le problème. J'ai des témoignages tous les jours très très fort sur ce film et j'espère que les choses vont évoluer au maximum.
On le voilà. souhaite aussi profondément, Guillaume, mais on imagine vraiment tout ce que vous avez aussi dans la tête, tous ces témoignages et toutes ces interpellations avant de monter à cheval. Il faut faire le tri et c'est vraiment pas simple. Je terminerai avec cette question, Guillaume Canet, vous qui êtes depuis le salon du cheval à Villepinte avec nous ce soir. Qui se regarde en rougissant dans les allées du salon? Est-ce que ce sont les cavaliers pros, champions du monde ou olympiques qui croisent l'acteur et le réalisateur que vous êtes ou l'inverse, Guillaume Canet?
Bah, en fait, je baigne dans ce milieu depuis tellement d'années que je les connais très très bien. En fait, c'est que des amis, je les connais depuis longtemps. Maintenant, je suis très très honoré justement quand je marche au botte-à-botte sur le paddock avec des grands cavaliers olympiques et que même si je les connais depuis longtemps, des fois ça me fait tout drôle de pouvoir faire des épreuves avec eux. Mais c'est plutôt avec le public que j'ai ça, oui. Ouais, parce que sinon ces cavaliers, ouais, je les connais depuis longtemps. Et c'est ce qui est très agréable, je vais vous avouer, parce que je vous raconte une petite anecdote, je fais très vite, c'est Rochefort qui racontait, Jean Rochefort, qui racontait qu'un jour, il a croisé un éleveur de chevaux qu'il voyait depuis des années, tous les week-ends en concours. Et l'éleveur le prend à part et lui dit « Dis donc, je t'ai vu à la télé, je ne savais pas que tu faisais du cinéma.
Voilà. »
Ça faisait 20 ans qu'il voyait sur les terrains de concours. Et ça, c'était le truc qui avait fait le plus plaisir à Jean. C'est que quand il était en concours, il n'était pas Jean Rochefort. Il était cet homme qui était en concours. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, en fait. C'est que ce sport aussi, cette pratique m'aide aussi à avoir les pieds bien sur terre et être avec des gens de la terre, des gens qui bossent leurs chevaux toute la semaine pour aller en compétition et qui ont qui sont des gens plutôt sains de corps et d'esprit, en fait, avec qui je m'entends bien et c'est plutôt très agréable. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Tout le monde est au même niveau.
Oui, avec l'humilité que vous avez bien décrit.
Ce qui d'ailleurs devrait être le cas pour tout le monde.
Ouais. Mais c'est très beau. Ces valeurs du sport, on les partage, de l'équitation et vos mots. En conclusion, Guillaume Canet, bonne chance pour le Grand Prix Longines Master de Paris demain.
Très
et puis régalez-vous bien et prenez plein de belles images. Vous nous ferez vivre tout ça, j'en suis sûre.
À
bientôt, Guillaume Canet. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
On lui souhaite bonne chance, effectivement. À suivre, une chanson dans la tête, Wendy Bouchard.
Et les titres qui ont accompagné la contestation sociale en France de mai 68 à aujourd'hui, revue d'actu en musique avec vous, Fabien Lecoeuvre. Bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard et le Grand Journal du Soir. C'est aussi une chanson dans la tête qui mêle la culture à l'actualité.
On va illustrer avec un pas de côté le mouvement social que nous traversons. Fabien, vous nous avez fait une petite sélection de ces chansons un peu contestataires.
Oui, parce que c'est important de rappeler que les chansons, souvent, une chanson, c'est l'âme d'un peuple. Très souvent. Alors, c'est vrai que quand la France est blessée, meurtrie par des événements, par des faits de société, tout simplement, eh bien, tout finit ou commence par des chansons.
Oui.
Alors, j'ai voulu commencer, évidemment, avec la première révolte sociale du siècle dernier. C'était, bien sûr, le Front Populaire, qui démarre après les élections, on va dire, de mai 1936. Et là, je dois dire qu'il y a une chanson à ce moment-là qui unit tout un peuple, non pas pour célébrer la révolte sociale, mais qui prépare la révolte sociale. On est en quelques mois avant, on est en 1935, fin d'année 35, et là, il y a une chanson que tous les Français fredonnent et qui rassemble la France entière.
Et qui s'intitule ?
Tout va très bien, Madame la Marquise, évidemment.
Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien,
un incident,
une
bêtise.
Ben oui, le disque craque, évidemment, évidemment parce qu'on ne voulait pas voir ce qui se préparait finalement, cette révolte ouvrière qui allait arriver l'année suivante.
C'est la chanson de l'autruche, me disiez-vous. Hein.
C'est complètement ça, c'est la chanson de l'autruche. L'autruche, c'est bien sûr Réventura et ses collégiens. Les collégiens, c'était... Tout le lycée Janson de Sailly à Paris qui s'était rassemblé, qui avait fait un petit orchestre.
Oui.
Et puis il y avait un garçon qui s'appelle Paul Misraki, qui était un auteur de l'époque et qui écrivait beaucoup pour Réventura, et qui descend à Nîmes. Et à l'issue d'un concert avec les Réventura et ses collégiens, il y a un grand dîner organisé dans la mairie de Nîmes. Et là, à leur table, il y a une lady écossaise, et qui se plaint parce que son employé vient de lui apprendre que sa jument grise est morte, qu'à la fois son mari vient de se suicider, et que finalement son château a brûlé. C'est une vraie histoire.
C'est incroyable.
Que l'employé de cette lady anglaise annonce à table. Et évidemment, Paul Misraki traduit tout ça en chanson. Et ça devient un hymne très populaire qui annonce que finalement, on ne veut pas entendre parler de politique, la montée du fascisme avec l'Allemagne. On ne veut pas entendre parler pratiquement des événements et des luttes ouvrières qui commencent. Les classes ouvrières se révoltent. Et alors tout le monde chante ça, et c'est la chanson de
l'autruche. C'est resté une formule. Qui vous a raconté cette anecdote?
Alors ça, c'est Loulou Gasté, parce que lui a bien connu Réventura et ses collégiens. Il a fait partie un moment,
le mari de Lynn Renault,
le célèbre mari de Lynn Renault, à qui l'on doit d'énormes succès. Et alors, la chanson du Front Populaire, quelques mois plus tard, c'est évidemment « Quand on se promène au bord de l'eau ». Ça, c'était Jean Gabin, mais on a la version de Patrick Bruel.
Ah. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chance.
Dans son album qui revisitait tous les tubes d'avant et d'après-guerre, Patrick Bruel.
Je ne sais pas si Bruel la chantera ce soir sur TF1, puisqu'il est en direct d'ailleurs.
Ah, c'est
ce
vrai.
Soir oui. De son concert à l'Arena, la plus grande salle qui rassemble 40 000 spectateurs là, ce soir à Paris.
Avec cette chanson, on célèbre les congés payés.
Évidemment, c'est la chanson, c'est une valse musette créée à l'occasion. Et pour le film La Belle Équipe, vous savez, c'était un film de Julien Duvivier en 36. Et tous les Français qui partent maintenant en congé, puisque grâce à cette lutte, la classe ouvrière a obtenu finalement enfin des congés payés et elle peut partir et s'asseoir au bord de l'eau.
On va faire un petit bond dans le temps.
Ah,
les
oui.
60s avec les chansons qui veulent un peu casser l'ordre établi. Europe 1 les a accompagnés, donc on est plein dedans.
Ah,
c'est notre histoire. On refuse le carcan des mœurs. Une partie de la jeunesse milite pour la libération sexuelle, notamment Antoine.
J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant « Antoine, vous avez du bon sens ?» Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix.
Oui, rien de mieux que des chansons pour rassembler encore une fois de plus le peuple. Europe 1 n'est pas en reste puisqu'elle a été une radio leader à ce moment-là qui a permis à la jeunesse de s'exprimer pour la première fois grâce à une émission d'Europe 1, et je pense à saluer les copains, la jeunesse a eu la parole. Et justement, puisqu'on lui donne la parole, sur Europe 1, on entend évidemment les élucubrations d'Antoine qui propose de mettre en vente la pilule dans les monoprix. Il s'adresse directement pratiquement au général de Gaulle.
Oui.
On avait aussi l'amour avec toi de Michel Polnareff, parce qu'on n'avait pas le droit de dire ça à une jeune fille, de faire l'amour avec elle.
Oui.
Donc ça a rassembler le social, on va dire, et le sexuel, déjà. Quelques mois avant mai 68. Et à partir de mai 68, évidemment, grève générale, grève absolue. On entend quelques chansons, parce qu'il y a une autre partie de la France, c'est-à-dire la radio d'État, qui rassemble déjà France Inter et d'autres radios comme
qui
ça
grève,
de l'époque.
Hein.
Ils sont tous en grève, mais il n'y a que quatre chansons qui passent à la radio, sur les radios en grève. On a Alouette de Gilles Dreux, on a Rain on Tears des Aphrodite Child, on a Il est 5h, Paris s'éveille, personne n'a oublié ce refrain, et puis À bicyclette d'Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Chanson d'amis, mais chanson sociale, pourquoi
alors,
bicyclette?
Alors sociale, parce qu'au départ, ça a été écrit pour faire une pub pour la bicyclette.
Oui.
Tout simplement, écrite par Pierre Barou, entre autres, et puis Francis Lay. Et puis lors d'une partie de poker chez Yves Montand, Pierre Barou siffle la mélodie et quelques paroles. Et là, Montand dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Mais c'est pour moi cette chanson, je la veux. Et puis finalement, là où il n'y a plus d'essence, en mai 68, tout le monde se met au vélo. Et finalement, la chanson devient un énorme succès pour Yves Montand dans sa carrière.
Ah, c'est génial. Et qui passera en boucle, vous le disiez. Alors, d'ailleurs, on est en situation de grève aussi.
Oui.
On peut parler de nos amis concurrents. Donc, écoutez bien l'info sur Europe 1. Mais en ce moment, si on écoute Inter ou Info, on a aussi des chansons sociales.
On a des chansons
sociales.
De révolte, absolument. On a d'abord La Grenade, qui est une vraie chanson de révolte sociale contre le sexisme, en tout cas. Et pour la place de la femme dans la société.
On va l'écouter tout de suite.
L'égalité homme-femme, avec plaisir. Et puis on a aussi bien sûr Balance ton quoi
de Angèle.
Il faut bien comprendre que les chansons souvent accompagnent en amont ou après, tout simplement, souvent notre société, et elle peut faire changer les lois. On se souvient des divorcés de Michel Delpech qui ont permis en 1975 de légiférer après sur le divorce par consentement mutuel.
Vous nous ferez une chanson dans la tête sur Delpech un jour et sur ses chansons.
Et sur les divorcés.
Voilà,
ça va m'intéresser beaucoup.
Merci. Fabien, vous restez avec nous. Vous allez réagir à plein de choses dans ce grand journal jusqu'à 20h. 19h15, la grève se poursuit et handicap les courses de Noël avant l'œil de Frédéric Dabi. A tout de suite.
Europe 1.
Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Si vous nous rejoignez, voici un nouveau journal présenté à 19h par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h, bon week-end avec Europe 1.
Le mécontentement donc est grandissant, on s'aperçoit que le gouvernement ne fait aucune annonce pour apaiser les choses.
Les syndicats de cheminots déterminés à faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites, ils appellent à amplifier le mouvement.
Dans ce contexte de grève, les courses de Noël prennent l'allure d'un parcours du combattant.
Ce fut un peu dur pour venir jusqu'ici. Il y avait un train toutes les heures, donc il ne fallait pas le louper, quoi. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour repartir.
Le ras-le-bol d'une maire de la Loire face au manque de médecins. Pour dénoncer la situation, elle interdit aux habitants de la commune de mourir chez eux durant les week-ends.
J'ai voulu réagir et tirer la sonnette d'alarme sur une situation médicale qui est dramatique.
Et puis aujourd'hui et demain se tient la 33e édition du Téléthon. C'est grâce à vos dons que la recherche avance. Illustration dans ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La mobilisation contre la réforme des retraites se durcit. La grève dans les transports s'ancre de plus en plus, Sophie.
Ah oui, le trafic à la RATP va être extrêmement perturbé demain. Aucun RER sur la ligne A, très peu sur la ligne B. Dans le métro, 14 lignes sur 16 seront fermées. Lundi, seules 6 lignes fonctionneront. À la SNCF, le trafic est également très affecté avec un TGV sur 6, un TER sur 10 et 15% des transiliens. Ce bras de fer a un objectif, faire plier le gouvernement. Réuni aujourd'hui au siège de la CGT, les trois premiers syndicats de cheminots sont déterminés et ils appellent à amplifier la mobilisation. Caroline Baudry.
Oui, la grève continuera tant que le projet de retraite par points ne sera pas retiré. Voilà ce que disent les syndicats. Au surlendemain d'une forte mobilisation, Florent Montellet, secrétaire général adjoint de l'UNSA Ferroviaire, se dit satisfait du mouvement et espère qu'il va prendre de l'ampleur.
Le mécontentement donc est grandissant. On s'aperçoit que le gouvernement ne fait aucune annonce pour apaiser les choses. Donc le Premier ministre, lui, jette de l'huile sur le feu à chaque fois qu'il parle, son gouvernement également. Donc on pense que le terrain est favorable pour une meilleure mobilisation.
Une nouvelle manifestation interprofessionnelle est prévue mardi partout en France. Les syndicats demandent au gouvernement de négocier pour améliorer le système de retraite existant. En attendant, les cheminots se disent prêts, sans réponse de l'exécutif, à poursuivre la grève jusqu'aux vacances de Noël.
Merci Caroline Baudry. Et dans ce contexte des manifestations aujourd'hui contre la précarité de la CGT, mais également celle des Gilets jaunes, acte 56, des défilés ont eu lieu un peu partout, avec parfois une convergence des luttes. Des heurts ont éclaté à Paris et à Nantes.
Avec les grèves et avec les manifestations, bien entendu, ce n'est pas facile de se déplacer. Malgré tout, les Parisiens sont au rendez-vous pour les courses de Noël sur les grands boulevards, Nicolas Feldman.
Oui, les grands boulevards qui ressemblent à un samedi de décembre presque normal. Devant les vitrines de Noël des grands magasins, il faut se frayer un chemin parmi la foule et les paquets cadeaux. Francis est arrivé hier de Périgueux.
On est venu en voiture. Sur les trains, il n'y avait pas du tout de ligne avec Bordeaux, Paris. Pratique aussi pour se déplacer dans Paris, malgré qu'il y avait beaucoup de bouchons hier soir. On avait un peu d'appréhension, mais aujourd'hui c'est très calme. On arrive à gérer, on va dire.
Et gestion et organisation comme mot d'ordre, surtout quand on doit se déplacer à pied avec des jumeaux de 6 ans. Sarah habite la banlieue parisienne.
Ce fut un peu dur pour venir jusqu'ici. Il y avait un train toutes les heures, donc il ne fallait pas le louper, quoi. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour repartir, mais on va aller à la gare et puis on va attendre le prochain train. Voilà.
Comment vous allez à la gare Saint-Lazare maintenant ?
À pied. On continue à pied. On a fait tout le chemin à pied jusqu'au Grand Rex et là, on continue à pied.
Et à pied, car le trafic reste perturbé à Paris. Quelques bus circulent, mais 9 lignes de métro sont à l'arrêt ce soir dans la capitale.
Merci Nicolas Feldman.
Alors, quelle situation de l'autre côté, du côté des commerçants ? On en parle dans un instant avec notre invité Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. À la une également, François Bayrou qui reste en poste malgré sa mise en examen hier soir. C'est ce qu'a fait savoir le président du groupe des députés Modem, Patrick Mignola.
Oui, François Bayrou est poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics dans le cadre de l'enquête sur le financement et le travail des assistants d'eurodéputés du parti. Le patron du Modem est une pièce maîtresse de la majorité. Jean-Rémy Baudot, est-ce qu'il conserve le soutien de l'exécutif ?
Oui, Sophie, ce soutien, il est affiché au plus haut sommet de l'État à travers son entourage. Le président de la République fait savoir que sur un plan personnel, il maintient, je cite, « son amitié à François Bayrou ». On comprend par ailleurs qu'il continuera d'échanger régulièrement avec son allié du Modem. Bayrou, qui devrait être notamment lundi à l'Élysée pour un déjeuner de travail de la majorité. Il accueillera aussi le président chez lui, à Pau, pour une séquence politique dans 10 jours. Autant de signes pour matérialiser le soutien d'Emmanuel Macron. Bayrou, c'est quelqu'un qui compte dans le dispositif, me confiait il y a quelques instants un conseiller du Premier ministre. Personne n'anticipe que cette mise en examen puisse en fait réellement affaiblir son poids politique ou son lien avec le président. Reste à savoir si François Bayrou pourrait être fragilisé au sein du Modem. Pour l'instant, les manœuvres pour sa succession ne semblent pas activées. Comme l'affirme un cadre de la majorité, il tient son parti, c'est encore lui le chef.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Dans un instant, la Loire qui manque cruellement de médecins. Et pour dénoncer cette situation, la maire d'une commune prend un arrêté assez surprenant. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1. Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Dans la Loire, écoutez bien, il est interdit désormais aux habitants de la commune de la Grêle de mourir chez eux le week-end et les jours fériés. Cet arrêté étonnant a été pris par la maire pour dénoncer, Sophie, la pénurie de médecins.
Oui Wendy, il faut dire que la semaine dernière, il a fallu 2h30 pour trouver un docteur et faire constater le décès d'un résident de la maison de retraite du village. Cet arrêté est une provocation, reconnaît la maire Isabelle Dugelet, mais il vise à dénoncer l'absurdité du système.
J'ai pris une telle mesure par réaction à cette situation absurde, par un arrêté qui est tout aussi absurde, qui n'a aucun sens, puisque de toute façon on ne peut pas interdire à quelqu'un de mourir, et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Simplement j'ai voulu réagir et tirer la sonnette d'alarme sur une situation médicale qui est dramatique dans notre secteur. Comme beaucoup d'endroits, je crois, en France, on doit se déplacer beaucoup à l'heure actuelle pour être soigné, plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui représente beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'ai eu plutôt des craintes en me disant que j'allais choquer. J'ai tenu à expliquer aux habitants pourquoi j'allais prendre cet arrêté, quel était le sens. Ils ont réagi, mais vraiment très favorablement. Ça m'a soulagée de voir que derrière la provocation, il y avait quand même beaucoup de compréhension. Des gens qui sont soulagés qu'enfin on essaye de résoudre leurs problèmes, qu'on parle enfin de ces difficultés. On dit beaucoup que c'est la préoccupation principale des territoires ruraux, mais on le dit, mais on ne fait rien.
Isabelle Dugelet avec Sophie Echène pour Europe 1. Willy Bardon est en phase de sortie progressive du coma, mais toujours dans un état critique. C'est ce qu'annonce ce soir le procureur d'Amiens, condamné à 30 ans de prison pour l'enlèvement, le viol et la mort des ludiculiques en 2002. Willy Bardon a ingéré, à l'énoncé du verdict hier soir, du thémique, un pesticide très violent. Ce week-end, c'est la 33e édition du Téléthon et grâce à vos dons, la recherche avance et permet de mieux soigner les malades.
Oui, comme avec la thérapie génique, une révolution médicale qui permet, par exemple, de traiter les dégénérescences de la rétine. Reportage pour Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois.
Ce que je vois, ce sont des vraies lumières, le reflet des lampadaires sur le pelage de mon chien guide.
À 55 ans, Wiza n'aurait jamais pensé retrouver un peu de sa vision. Touchée par une maladie orpheline de la rétine, elle est quasiment aveugle depuis l'enfance. Alors quand elle est sélectionnée pour ce premier essai clinique, Wiza est pleine d'espoir. Un patch de cellules souches de 3 mm sur 5 est greffé dans son œil en septembre.
C'est l'événement d'une vie. À la consultation du deuxième mois, le docteur regarde mon œil. Je lui dis, je vois votre lumière. Là, il y a quelque chose de tout ça qui fonctionne, quoi. Ça marche. C'est extrêmement prometteur.
Et c'est aussi une avancée médicale encourageante pour d'autres maladies moins rares. Christelle Monville est chercheuse au laboratoire ISTEM qui a développé cette thérapie.
On espère voir ce patch transformé en un véritable traitement pour ces maladies génétiques, mais aussi peut-être pour des maladies beaucoup plus fréquentes, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, puisque ce sont les mêmes cellules qui fonctionnent mal ou qui sont perdues.
Une thérapie génique porteuse d'espoir pour plus d'1,5 million de personnes concernées par la dégénérescence maculaire liée à l'âge en France.
Jean-Gabriel Bourgeois est pour aider la recherche. Un numéro, le 3637, ou bien directement sur le site internet téléthon.fr. Grâce à vous, 34 685 856 euros de promesses de dons avaient déjà été récoltés avant 19h.
Merci Sophie Tussaud, tout à l'heure pour le rappel de l'actualité.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et c'est un ciel bien pluvieux qui s'annonce quasiment partout demain, Valérie Darmon, avec une perturbation qui balaie le pays.
Eh bien, au lever du jour, les régions allant de la Bretagne vers les pays de la Loire jusqu'aux Flandres sont arrosées. Les pluies se décaleront au fil des heures vers le sud-est et toucheront en fin de journée les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, le Massif central et les Alpes du Nord. Et à l'arrière, ce sera un ciel de traîne qui s'installera. L'instabilité se renforcera dans l'après-midi sur la Bretagne et les côtes de la Manche où les averses seront plus fréquentes, ponctuées par moments d'un coup de tonnerre et de violentes rafales de vent.
dans la soirée de dimanche. Au lever du jour, le thermomètre affichera 3 à 8 degrés du nord au sud, 8 à 10 sur l'ensemble des littoraux et 9 à 12 sur la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 10 et 15 en général, 14 à 16 sur la Méditerranée et 16 à 17 sur l'île de Beauté.
Merci Valérie Darmon. Il est 19h12. Place au journal des sports, Wendy Bouchard.
Et l'on retrouve pour vous informer Christophe Lamar au cœur de cette 17e journée de Ligue 1. Montpellier contre le PSG. On approche de la fin du match, Christophe.
Le PSG était en mauvaise posture à la pause. Les Parisiens étaient menés 1 à 0 par Montpellier. On retrouve tout de suite Romain Boselli, l'un de nos correspondants sur place. Romain, quelque chose me dit que le score a évolué.
Ouais, effectivement, c'est le Paris Saint-Germain désormais qui est devant au tableau d'affichage de buts 1. Et à l'instant, Neymar qui vient de frapper le poteau sur un nouveau coup franc. Les Parisiens qui ont renversé la vapeur en deux petites minutes. D'abord, Neymar qui a égalisé sur un sublime coup franc 25 mètres plein axe en pleine lucarne. Et deux minutes après, c'est Kylian Mbappé qui, d'un crochet intérieur, d'une frappe enchaînée, est venu marquer le deuxième but pour le Paris Saint-Germain qui est donc devant au tableau d'affichage et qui multiplie désormais les occasions, qui joue également à 11 contre 10, 2 buts 1 pour le Paris Saint-Germain.
Romain Boselli en direct du stade de la Mausson.
Quatre autres matchs également au programme ce samedi.
Oui, ils débuteront tous à 20h et vous pourrez les suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir. Monaco-Amiens, Nice-Metz, Rennes-Angers et Strasbourg-Toulouse. On rappelle qu'hier soir, Lille a battu Brest 1 à 0 et Lyon s'est rassuré sur la pelouse de Nîmes. Victoire 4 à 0 des Lyonnais face à des Nîmois réduits à 9.
Le foot à l'étranger maintenant.
En Angleterre, Chelsea s'incline 3 buts à 1 sur la pelouse d'Everton, pourtant très mal classé. En revanche, tout va bien pour le leader de la Première Ligue, Liverpool, qui a battu Bournemouth 3 à 0. En Espagne, le Real bat l'Espagnol Barcelone 2 à 0. But signé Raphaël Varane et Karim Benzema. Et puis en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach est désormais seul aux commandes de la Bundesliga après sa victoire sur le Bayern Munich 2 buts à 1.
La Coupe d'Europe de rugby est une première pour Lyon, Christophe.
Le Loup s'impose face aux Italiens de Trévise 28 à 0 avec le point du bonus offensif en prime. Un succès qui met un terme à une triste série. Les Lyonnais restaient sur 8 défaites consécutives en Coupe d'Europe. De son côté, La Rochelle s'est inclinée sur sa pelouse face à Glasgow 27-24. Troisième défaite en autant de journées. Les Rochelais sont pratiquement éliminés de cette Coupe d'Europe. Et puis le Racing 92 affronte en ce moment les Gallois d'Ospreys. Et pour l'instant, les Franciliens mènent 26 à 7.
En bref, le reste de l'actu sportive.
La Coupe du Monde de biathlon, pas de victoire pour le relais masculin français à Östersund en Suède, qui prend tout de même la deuxième place derrière la Norvège. L'Italie complète le podium. Enfin, une consolation pour le ski français. Après tout, avec Perrine Laffont, la championne olympique de ski freestyle, vient de remporter la première étape de la Coupe du Monde en Finlande.
Merci beaucoup, Christophe Lamar sur Europe 1.
À suivre dans ce grand journal du soir, une inquiétude du côté des petits commerçants.
Oui, face aux appels à manifester mardi, le week-end de course s'annonce perturbé par la poursuite du blocage des transports publics notamment. On entendait quelques usagers s'organiser et on va entendre dans un instant les commerçants sur Europe 1, représentés par Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
19h16, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite de ce grand journal du soir sur Europe 1. Et vous êtes peut-être de retour de course en voiture. Eh bien, on fait le point justement sur la manière dont commerçants et clients s'organisent face à ce mouvement de grève.
Avec vous, Johan Petiot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous qui êtes directeur général de l'Alliance du Commerce, vous regroupez à ce titre 26 000 magasins, les grands magasins, 450 boutiques d'habillement, d'enseignes de chaussures. C'était compliqué jeudi, journée de grève et de manifestation. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui, 19h17, Johan Petiot?
Bon, c'est encore un peu tôt pour faire un constat global de cette journée, mais d'ores et déjà, on peut dire que les centres-villes des grandes villes, qui ont connu à la fois le blocage de leur transport et des manifestations importantes dans de nombreuses villes, c'est encore pour eux une journée difficile, du même acabit que celle qu'ils ont vécue jeudi.
Mmh. Est-ce que vous proposez de multiplier un petit peu le principe de la livraison gratuite pour faciliter justement aujourd'hui les courses des Français qui nous écoutent?
Ce qui est à craindre, vous l'avez dit, c'est un report des achats vers Internet. Et ce qui est malheureux, parce que tous les commerces, en effet, souffrent depuis un an quand même de manifestations hebdomadaires. Et alors que s'approche le mois de décembre, qui est un mois essentiel pour eux d'activité, c'est 10 à 20% de leur activité qu'ils font sur le mois de décembre. Ce sont de nouveaux blocages auxquels ils sont confrontés. Donc le message que j'ai envie d'envoyer ce soir à toutes et ceux qui doivent faire leurs courses, c'est quand même de favoriser leur magasin de proximité et si possible leur magasin de centre-ville.
Oui, mais pour répondre à la question que je vous posais sur la livraison un peu plus systématique, quand on achète des choses un peu trop encombrantes et qu'on n'a pas le véhicule adapté, est-ce que vous, il y a des facilitations peut-être, un message là-dessus que vous portez pour l'Alliance du Commerce?
Oui, mais c'est... Oui, mais c'est déjà souvent le cas. Il y a énormément de marques et de sites internet qui vous font les livraisons, même à titre gratuit, à partir d'un certain montant d'achat. Donc ça, c'est déjà une politique qui est mise en place depuis très longtemps par de nombreuses marques.
Alors, on va parler de ceux qui se profilent, mais aussi des commerçants qui, dès mardi, sur le parcours de manifestation, devront fermer boutique. Et là, c'est zéro de chiffre d'affaires. Yoann Petiot, les assurances fonctionnent dans ces cas-là ?
Ça, c'est un point à vérifier, parce que c'est vrai que le 5 décembre, déjà, le préfet de Paris avait demandé à ce que tous les commerces ferment. Ce sera la même chose pour mardi prochain. Oui. C'est vrai que pour ces commerçants-là, c'est 0% de chiffre d'affaires, et donc c'est une perte nette. Comme c'est à la demande de la préfecture, il faut aussi vérifier peut-être que des indemnisations de la part de l'État seraient possibles sur ces journées-là. En tout cas, il faut que ces commerces qui soient et qui sont obligés d'être fermés par ces manifestations puissent être indemnisés.
Alors, vous parliez de ce contexte compliqué. Vous qui viviez avec les commerçants il y a un an tout juste, le mouvement des Gilets jaunes, les journées mortes du samedi, on s'en souvient, et ces mouvements sociaux du moment, ça fait deux fins d'automne très délicates pour votre secteur, avec des craintes vraiment sur les pertes de chiffre d'affaires réelles.
Ça fait même une année qui a été dure, parce qu'en effet, le mouvement des Gilets jaunes a commencé au mois de novembre l'année dernière, mais il a repris dès le mois de janvier, il s'est poursuivi assez fort au printemps, et on commençait juste au mois de novembre à retrouver une dynamique dans l'activité avec un Black Friday qui a assez bien fonctionné. Donc là, c'est vrai que ces nouvelles manifestations, si elles se poursuivent trop longtemps, viendront casser la reprise du commerce et de l'activité, ce qui est regrettable, parce qu'encore une fois, c'est le mois le plus important de l'activité pour tous ces commerçants.
Est-ce que vous demandez par exemple des dispositifs qui avaient été lancés à l'occasion des Gilets jaunes, justement, les allègements de charges sociales, des reports de cotisations pour vous permettre de mieux affronter cette réalité ?
Bien sûr, si le mouvement perdure, il faudra très rapidement pouvoir mettre en place un plan de soutien avec des mesures telles que celles qui avaient été mises en place l'année dernière pour les Gilets jaunes, mais elles sont insuffisantes. Il faut bien se rappeler que le mouvement des Gilets jaunes, c'était des mesures de report de dettes fiscales, oui, de dettes sociales, mais qui dit report dit que ces dettes doivent être un jour payées. Or, si on ne fait pas d'activité, c'est d'autant plus difficile de pouvoir payer ces dettes, que ce soit maintenant ou dans 3 mois en cas de report. Ce que véritablement souhaitent les commerçants, c'est pouvoir simplement faire leur activité. Ça fait un an que c'est compliqué. Mmh. Ils souhaitent pouvoir réussir cette fin d'année. Et donc, on espère avec un peu d'optimisme que le mouvement durera le moins longtemps possible et sera le moins impactant pour les commerçants.
Quel est le discours en face, Yoann Petiot, vous qui représentez l'Alliance du Commerce avec 26 000 magasins, de votre ministre de tutelle qui est en charge de l'artisanat et du commerce ? Compréhensive ?
Oui, nous avons échangé avec elle à la fin de la journée de jeudi, et donc elle est parfaitement informée de la situation et totalement au courant et consciente des difficultés que rencontrent tous les commerçants. Et je pense que si le mouvement perdure, le gouvernement n'hésitera pas, en tout cas je l'espère, à mettre en place de nouvelles mesures de soutien.
Oui, même si, puisqu'il s'agit d'elle, Agnès Pannier-Runacher a affirmé hier que les conséquences du mouvement sur l'économie française étaient modestes. Vous demandez à voir, évidemment, si le mouvement dure.
Oui, parce que lorsqu'on dit que c'est modeste sur une économie en général, bien sûr, mais je pense qu'il faut regarder au niveau de chaque territoire. Aujourd'hui, il y a encore eu des manifestations importantes, que ce soit à Toulouse, à Marseille, à Nantes, dans le centre de Paris, avec un mouvement de blocage aussi des transports. Donc bien sûr, si on a une appréciation générale de la situation, c'est microscopique. Mais pour autant, il y a des milliers de commerçants qui ont des baisses d'activité importantes ce samedi et depuis maintenant près d'un an.
Nous parlions sur Europe 1, par exemple, de la fête des Lumières à Lyon, avec 30% d'annulation dans les hôtels, commerce et hôtellerie. Là, vous êtes dans le même bateau, pour le coup.
Oui, bien sûr. Et puis, il y aura, nous, ce que l'on craint aussi, c'est l'effet retard sur le tourisme, c'est-à-dire avec des gens qui, voyant ce qui se passe aujourd'hui, annulent leur venue à Paris ou même ailleurs en France pour les jours à venir, c'est-à-dire pour les fêtes de Noël, mais même pour le début d'année prochaine. Donc, on craint aujourd'hui véritablement un effet retard sur le tourisme qui entraînerait une vague d'annulation pour les semaines à venir.
Avec le système D, alors pour les salariés, on parle du télétravail, du covoiturage, la nécessité aussi pour vous d'avoir une présence physique dans les magasins, quel que soit le lieu d'habitation des salariés. Vous recourez aussi, j'imagine, aux chambres d'hôtel. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup pour que vos salariés restent sur place et assurent l'ouverture des magasins en temps de grève.
Oui, ce qui a été essentiellement mis en place, c'est le covoiturage entre salariés lorsqu'il était possible. Parfois, la prise en charge des frais de transport ou des frais de parking lorsque ces salariés étaient obligés de venir en voiture. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail. toutes les équipes, que ce soit celles qui le sont dans les bureaux habituellement, sont aussi allées dans les magasins pour accueillir leurs clients. Donc voilà, aujourd'hui, il faut saluer quand même tous ces milliers de salariés qui ont quand même tenu à se rendre dans leurs magasins pour accueillir leurs clients malgré des heures souvent longues de trajet.
Vous représentez les commerçants qui, pour beaucoup, auront de petites retraites. Est-ce que vous êtes partagé au fond entre votre réalité aujourd'hui, cette activité un peu en berne, et le soutien à un mouvement sur l'avenir de ces pensions, Johan Potio?
Bien sûr, chacun a sa position en tant que citoyen sur cette réforme des retraites. Aujourd'hui, il ne me revient pas de me prononcer sur cette réforme. Ce qui est vrai, c'est que la réforme ou le mouvement qui dure depuis un an a un véritable impact sur un secteur économique qui est important pour notre pays et qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui.
Merci Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, et bon courage à tous les commerçants qui devront organiser un petit peu leur journée en ces temps de mouvements sociaux. Et je précise que dans quelques instants, on retrouvera Frédéric Dabi qui a bien vu la différence entre la contestation sociale de 1995 et le mouvement de grève d'aujourd'hui. Merci à vous.
Merci à vous.
Le Grand Journal du soir poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Nous sommes avec Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète, comme chaque samedi, c'est le journal de l'environnement avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, la crise climatique vue par la vice-présidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte. Aux États-Unis, des bombes au cyanure anti-prédateurs font bondir les défenseurs de l'environnement. Et puis, comment se passer des bouteilles en plastique ?
Nous sommes exactement à mi-chemin de la COP25 qui va durer encore toute la semaine à Madrid et vous y serez, Virginie Salmen. Et une phrase d'Edouard Philippe prononcée là-bas a attiré votre attention.
Oui, le Premier ministre, quand il est venu à Madrid lundi, avait une attitude et un discours volontariste. Le combat est gagnable, disait-il à propos du réchauffement climatique. Ce qui tranchait avec les phrases choc et dramatiques du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui lui était plutôt sur une ligne. Attention, si on ne change pas, nous remettons en cause la vie elle-même, la vie sur Terre. Et Edouard Philippe s'est appuyé sur une anecdote de son enfance. Quand il était petit, on parlait beaucoup des pluies acides. On avait l'impression qu'elles allaient détruire nos forêts. Quelques décennies plus tard, on a réglé le problème, dit-il. Alors, est-ce que c'est comparable ? Est-ce qu'on peut appliquer la même recette pour le climat ? Je suis allée poser la question dans les allées de la COP25 à la vice-présidente du GIEC en personne, Valérie Masson-Delmotte. Réponse.
Il y a effectivement des exemples de réussite de politique environnementale. Donc, réduire les rejets de soufre des centrales les plus polluantes, ça a permis d'agir par rapport aux pluies acides et à leurs dégâts pour les forêts. On a la même chose par rapport à la destruction de la couche d'ozone, à la fois des boycotts citoyens et puis une action concertée internationale et les solutions apportées par l'industrie pour avoir des produits de substitution. Et on commence à voir les premiers signes de récupération. Donc effectivement, quand il y a un problème majeur environnemental, l'enjeu c'est d'arriver à déployer le plus rapidement possible des solutions. Mais pour le climat, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas un seul secteur d'activité qui est concerné. C'est l'ensemble des secteurs d'activité, aussi bien l'énergie que la manière dont on se transporte, la manière dont on produit ce que l'on consomme. Et donc il y a vraiment cet enjeu à mobiliser tout un ensemble de solutions différentes et complémentaires.
Voilà, cette fois la complexité, c'est que ce n'est pas un seul produit, donc le soufre pour les plus acides ou le protoxyde d'azote, ça c'était contre la couche d'ozone qu'il fallait éradiquer. C'est la société tout entière qu'il faut mobiliser, voilà la nuance.
Mais bonne illustration néanmoins. Aux États-Unis maintenant, Virginie, les autorités, écoutez bien, ont donné leur feu vert à l'utilisation de pièges au cyanure de sodium. Pourquoi ? Pour tuer des renards, des coyotes ou des chiens sauvages.
Oui, ce sont des pièges mortels. Ils sont enfoncés dans le sol avec un appât qui dépasse. Et lorsque l'animal le mord, ça projette un nuage de cyanure qui le tue immédiatement. Leur utilisation avait été suspendue il y a quelques mois parce qu'un enfant et son chien en balade avaient été tués par l'un de ces pièges. Mais sous la pression de certains éleveurs, ces pièges qu'on appelle M44 ont été réautorisés avec quelques mesures d'accompagnement. Il y a désormais un périmètre, par exemple, autour des maisons et des chemins, mais ça veut quand même dire qu'il y a des pièges au cyanure dissimulés un peu partout dans la nature, soulignent les associations écologistes. Des pièges qui mettent en danger les promeneurs, les animaux de compagnie, mais aussi les espèces menacées. Et effectivement, parmi les 6500 animaux tués par ces pièges l'an dernier, les chiffres du gouvernement montrent que 200 d'entre eux n'étaient pas visés initialement, parmi lesquels des opossums, des ratons laveurs et un ours.
On va terminer avec les gestes du quotidien et le conseil de votre copine Catherine.
Alors, elle n'a pas touché à une bouteille en plastique depuis plus d'un an maintenant. Et pourtant, avant, c'était son premier geste du matin. Elle le confesse en arrivant au bureau, acheter une petite bouteille de cristalline au distributeur. Alors, elle se balade toujours désormais avec une gourde en inox. Elle en a de trois tailles différentes selon les besoins, pour le travail, le week-end. Et Catherine s'est rendue compte qu'il y a vraiment plein d'endroits où on peut la remplir, cette gourde. Elle ne s'interdit pas, évidemment, un soda de temps en temps, mais en canette, parce que la canette, c'est complètement recyclable. Alors voilà sa suggestion. Cette semaine, comptez le nombre de bouteilles plastiques plastique que vous allez boire. Peut-être aurez-vous envie d'investir dans une gourde. C'est signé Catherine Marie.
Ne serait-ce que pour faire 1000 allers-retours dans la poubelle de recyclage de plastique. Voilà. Merci beaucoup Virginie Salmen. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine depuis la COP25 à Madrid.
Oui.
À suivre l'instant gourmand de notre 18-20 Wendy Bouchard.
Et une recette de langoustine par Stéphanie Lequelec, grande chef. On va suivre Pierre Herbulot au fourneau ce soir, comme chaque samedi.
Europe 1, le grand journal du soir. Wendy Bouchard. Europe 1.
19h31, la suite de votre grand journal d'histoire. Wendy Bouchard.
Voici l'essentiel de l'actualité, Sophie Tussaud.
Un week-end noir dans les transports pour protester contre la réforme des retraites. La RATP prévoit un trafic toujours extrêmement perturbé demain. Aucun RER sur la ligne A, très peu sur la ligne B. 14 lignes de métro sur 16 fermées et 10 lundi. 50% des bus et 2 tramways sur 3 en circulation. Trafic également perturbé à la SNCF. Un TGV sur 6 et seulement 15% des intercités. Et les syndicats de cheminots réunis en intersyndicale aujourd'hui ont appelé à durcir le mouvement, et ce avant la prochaine grosse journée de mobilisation mardi. Aujourd'hui, des manifestations à travers la France, de la CGT contre la précarité et des Gilets jaunes, acte 56, avec dans certaines villes une convergence des luttes. Des heurts ont également éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Paris et Nantes. Willy Bardon est toujours dans un état critique, mais il est en phase de sortie progressive du coma, selon le procureur d'Amiens. Condamné à 30 ans de prison pour l'enlèvement, le viol et la mort d'Élodie Kulik en 2002, il a ingéré hier soir, à l'énoncé du verdict du Témic, un pesticide très violent. Le football, la Ligue 1 et le PSG s'imposent 3 buts à 1 face à Montpellier, avec 3 buts en seulement 7 minutes. Suite de cette...
renversement de situation. Hein.
Oui, exactement. Suite de cette 17e journée de Ligue 1 à 20h et à suivre bien sûr sur Europe 1.
20h, on vous retrouve. Merci Sophie.
Dans l'ombre des grands chefs, Wendy, c'est maintenant, on va se régaler.
Pour cuisiner un crustacé phare de l'hiver, on parle de la langoustine et laquelle ? Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Wendy, je vous emmène ce soir dans le nouveau restaurant de Stéphanie Lequelec. Bonsoir.
Bonsoir.
Le grand public vous connaît pour avoir participé à Top Chef, les fins gourmets vous connaissent pour les 2 étoiles que vous avez décrochées au Prince de Galles. Vous êtes lancé dans un nouveau restaurant depuis le début du mois d'octobre, La Seine.
La Seine, voilà, 32 avenue Matignon, dans le 8e.
Ça va être un produit de fête que vous allez nous cuisiner ce soir ?
Absolument, la langoustine bretonne. On va la cuisiner très simplement, à peine saisie, marinée avec une huile vanillée, des graines de sarrasin toastées. Et avec les pinces, on va réaliser un petit blanc manger, une fine mousse pour accompagner tout ça.
Fantastique. Par quoi on commence ?
Alors on va commencer par le blanc manger. Donc on décortique les langoustines. Je garde la chair de la queue. Et puis on va décortiquer les petites pattes. On porte à ébullition un demi-litre de lait. J'ajoute un bouquet garni, la chair des langoustines. Et je cuis environ une minute. J'égoutte cette chair. On va ensuite mixer. Une fois mixé, je vais ajouter une feuille de gélatine ramollie. Puis la crème fouettée. J'assaisonne de sel, de poivre et d'un jus de citron. Et on laisse prendre environ une heure au réfrigérateur.
D'accord.
Ensuite, on va pouvoir réaliser l'huile vanillée. Donc, je gratte une gousse de vanille. J'ajoute 6 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra. Et on va la laisser infuser comme ça. On ajoute ensuite les graines de sarrasin grillées. Puis, une brunoise de citron.
Ça sent super bon.
Alors, c'est important d'avoir toutes ces petites graines de vanille.
On voit qu'il y en a, là. C'est généreux en vanille.
Il faut être généreux de toute façon en cuisine. Et ensuite, on va passer au poêlage de la langoustine. Donc là, un feu vif. J'assaisonne de sel et de poivre la langoustine. Et je vais la saisir d'un seul côté. La chaleur va monter gentiment dans la chair, mais on va garder cette sensation presque du cru en fait. Et voilà.
Là, ça suffit là. Vraiment 30 secondes.
C'est vraiment 30 secondes. Et ensuite, on peut passer au dressage. Donc c'est une recette extrêmement facile et efficace.
Que nos auditeurs peuvent essayer de refaire à la maison.
Qu'on leur conseille de refaire à la maison.
Pour les fêtes, ça va être génial.
Donc, ma petite marinade, vanille, sarrasin, citron. Je viens napper la langoustine avec. Alors avec les têtes de langoustine, j'ai réalisé une petite bisque, une sauce, voilà, très simple. Je viens déposer la langoustine dessus. La marinade va venir se mélanger, ça va vraiment rehausser la saveur. Le petit blanc manger, donc cette mousse des pinces.
Oh, la belle
quenelle. Je viens en déposer une quenelle à côté. Et ensuite, on va venir terminer, ultime clin d'œil à la Bretagne, avec une fine dentelle de sarrasin.
Obligatoire.
Alors, on va ramener un petit peu de croquant et de légèreté.
C'est magnifique. Hein.
Et là, je pense qu'on peut aisément... avoir ça sur une table de réveillon.
C'est délicieux. On a cette rondeur avec la vanille. On a le croustillant avec la tuile de sarrasin, la petite mousse qui est vraiment délicieuse, très douce aussi. Et la chair le goût pur de la langoustine à peine saisie.
Ouais, comme si elle sortait de l'eau, comme si elle sortait du casier.
Bon, ben, j'invite Wendy et les auditeurs à y aller les yeux fermés. Recette facile, un peu technique quand même, faut rester vigilant sur 2-3 étapes, mais à la fin c'est délicieux.
Surtout sur la cuisson de la langoustine, c'est l'étape essentielle.
Ça marche. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, chef.
Merci à vous.
Merci, Pierre. Et recette à retrouver, bien sûr, sur europe1.fr. Et attention, il y a des photos sur Twitter, hein, sur la page de Pierre Herbulot.
Pour vous appliquer à une reproduction parfaite de cette recette.
Exactement. 19h36, voici maintenant l'œil de Frédéric Dabi sur Europe 1, directeur général de l'IFOP.
Bonsoir, cher Frédéric.
Bonsoir, Wendy. Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous en studio, vous qui observez dans le détail le mouvement social que nous traversons. Avec d'abord, il faut le préciser, car le secrétaire général adjoint de la CGT nous le mentionnait tout à l'heure, ce niveau de sympathie qu'il faut relever. On l'a entendu dans les reportages, dans les témoignages cette semaine. On est bloqué, certes, mais une partie des Français comprend le mouvement du moment.
Clairement oui, une majorité de Français, hein, interrogés par l'IFOP pour CNews de 3 et 4 décembre, soutiennent ou ont de la sympathie pour ce mouvement à 56%, c'est une majorité nette. C'est le même niveau qu'en novembre 1995, on était à 54%, mais surtout, la part des personnes qui expriment un soutien pur est plus élevée aujourd'hui qu'il ne l'était en 1995. Et puis par rapport à la semaine dernière, il y avait une enquête IFOP-JDD avant que les Français rentrent, si je puis dire, dans le jeu et soient focalisés par ce mouvement social. 10 points de plus, on est quand même sur quelque chose qui peut être marquant.
Oui.
Dans le quinquennat d'Emmanuel Macron.
C'est intéressant que vous nous parliez de 95 parce que c'est la référence que tout le monde a en tête. On se dit, voilà, est-ce que ça va durer comme en 95? Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux mouvements sociaux?
Voilà, je serais très prudent pour plaquer ce référent historique de 95 sur la période actuelle à deux niveaux. J'ai envie de dire non, car 95, il faut s'en souvenir, c'était l'aboutissement d'une colère très forte contre Jacques Chirac et Alain Juppé dès le début de leur mandat, dès le début de leur septennat, puisque surtout Jacques Chirac avait été perçu comme trahissant ses promesses dès son arrivée au pouvoir. Il avait tourné le dos à la fracture sociale, alors que Emmanuel Macron a parlé de cette réforme dans sa campagne.
Oui.
Il l'a annoncé il y a 18 mois et il est toujours crédité d'une posture réformatrice. Autre atout pour le pouvoir exécutif, l'opinion, dans toutes les enquêtes, semble avoir intériorisé, comme pour toutes les réformes précédentes, que Emmanuel Macron ne lâcherait pas le morceau. Dans une enquête IFOP fiduciale de la semaine dernière, 70% des Français pronostiquent que le gouvernement ira au bout, y compris des segments qui sont favorables au mouvement social, par exemple les salariés du secteur public et des sympathisants de gauche.
C'est intéressant ça. Élément de ressemblance peut-être, le côté massif quand même de la mobilisation. 1 million de personnes dans les rues pour une réforme qui n'a pas été encore exprimée dans le détail.
Voilà, c'est en ça que peut-être un 95 bis, si je puis dire, est possible. Le mouvement, vous le disiez, les deux premières journées ont été extrêmement suivies. Et surtout, ce début de mouvement révèle l'extraordinaire fragilisation dans laquelle s'est mise l'exécutif. Si je voulais faire un trait d'humour, il a fait descendre dans la rue jeudi, entre 800 000 et 1,5 million de personnes, alors que la réforme n'a pas été annoncée. En 2010, la réforme était claire. Là, on a un pouvoir exécutif qui n'a pas dévoilé ses intentions pour les détails de la réforme. Ça sera mercredi par Édouard Philippe, qui a étiré dans le temps le temps de la concertation, ce qui a créé du brouillage, ce qui a créé du soupçon, ce qui a créé l'angoisse.
Et puis, oui, l'anxiété dont parlait Laurence Rossignol tout à l'heure.
Tout à fait. Et contrairement aux réformes précédentes, tout se passe comme si Emmanuel Macron, Édouard Philippe, avaient délégué cette réforme à Jean-Paul Delevoye, qui reste peu connu des Français et qui a eu quelques mots malheureux avec ce choix des mots. Le terme de retraite à points, quand on interroge les Français, il est clairement mal choisi. C'est clairement associé avec une perte de pouvoir d'achat. Et là, il y a un lien de similitude avec le mouvement des Gilets jaunes.
Quand on voit Édouard Philippe dans la cour de Matignon, on pense aussi à la filiation avec Alain Juppé. Ces hommes se connaissent, il en est un peu son héritier. Voilà, on peut faire un rapprochement plus que symbolique entre les deux.
Voilà, il est tout à fait symbolique. En 1995, Édouard Philippe faisait son stage de l'ENA dans une sous-préfecture de l'Aude, crois, à Carcassonne. je l'ai à peu près en tête. Mais c'est vrai qu'il peut être vu comme une sorte de grand brûlé collatéral de 1995 du fait de sa proximité historique avec Alain Juppé. Sans doute, il a ce mouvement social en tête qui a, gâché le début de mandat de Jacques Chirac. Mais il va monter au front, il va annoncer enfin les contours de la réforme mercredi prochain. Et puis, il a une capacité, Édouard Philippe, à vendre la réforme auprès de cet électorat de droite qui, pour l'instant, n'est pas complètement raccord avec le bloc macronien, à la différence des réformes précédentes.
Voilà pour votre œil sur ce sujet et le sondage IFOP pour le JDD à découvrir demain dans le journal. 19h40. Ben, on continue parce que je voudrais qu'on change juste d'univers pour parler quelques instants de celui des séries avec vous, Frédéric Dabi, et votre œil captivé par la série Netflix qui retrace l'affaire du petit Grégory.
Oui, c'est l'affaire judiciaire la plus médiatisée du XXe siècle. On pensait tout avoir lu, vu sur cette affaire absolument tragique. Et Netflix a créé une sorte de genre nouveau. Ce n'est pas une adaptation cinématographique d'un fait divers. Ce n'est pas ces productions qui créent un certain malaise, qui mélangent images d'archives et reconstitutions. C'est un documentaire, une affaire revisitée à 360 degrés, oui, à partir d'allers-retours entre témoignages d'époque, on voit vraiment des images qu'on n'avait jamais vues, et des propos des mêmes protagonistes 35 ans après, et on a l'impression de redécouvrir cette affaire Grégory. En 5 ou 6 oui, épisodes, depuis le point de départ du drame de ce 16 octobre 84, où sans doute il ne se passait pas grand-chose dans les médias de l'époque, il y a eu une polarisation sur ce drame, et puis on a toute une série de thématiques connexes au drame. On voit la guerre gendarmerie-police, et la gendarmerie qui peut-être met le paquet pour incriminer Bernard Laroche versus la police qui est plus sur un soupçon à l'égard de Christine Wiedemann. Rappelons qu'elle a été complètement innocentée. Il y a une certaine collusion entre journalistes, spécialistes des questions de justice et police-gendarmerie. Et puis, on va dire les choses, il y a ce juge, ce petit juge, Jean-Michel Lambert. À minima, sans être trop cruel, ce documentaire montre des faiblesses absolument incroyables qui rappellent les faiblesses récentes du juge en charge de l'affaire d'Outreau.
Voilà, toutes ces belles choses et ce nouveau genre aussi que diffuse cette plateforme Netflix. Voilà, rendons grâce aussi aux Américains de souligner des documentaires du genre, des séries documentaires du genre. Merci Frédéric Dabi, on aime votre éclectisme. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de faire le grand écart avec vous sur Europe 1, dans votre œil. Merci beaucoup.
Merci.
Et le grand journal du soir se poursuit dans un instant avec une semaine en Europe 1, Wendy.
Les grands moments sur l'antenne avant l'interview de Philippe Legrand qui reçoit aujourd'hui Daniel Lévy qui nous parle d'une poignée de main fondatrice pour son histoire.
18h-20h, Wendy Bouchard.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard. Voici à présent une semaine en Europe 1, les temps forts de ces derniers jours sur l'antenne.
C'était lundi au micro de Nathalie Lévy, au jour de l'hommage de la nation aux 13 soldats morts en opération au Mali. Ces mots de Dominique Jacques, père de Fabien, un maréchal des logis tué sur ce même terrain en 2016.
L'opération Barkhane doit continuer puisque on défend nos valeurs françaises, on défend les valeurs universelles, on défend les valeurs de paix et les soldats qui sont engagés sont des soldats de la paix, il faut pas oublier ça. Et puis on protège aussi notre condition de Français sur le territoire de la métropole et notre sécurité. Et ça, je crois qu'il faut pas perdre de vue cela. Il faut pas baisser les bras. Je crois que Fabien n'aimerait pas qu'on baisse les bras puisqu'il était convaincu de sa mission.
Mardi, Philippe Geluck est l'invité inattendu de Mathieu Béliard en plein sommet de la COP25 en Espagne. Dessinateur du chat, évidemment, et surtout très sensible à la cause environnementale.
Les Amérindiens avaient compris tout cela très très tôt. Il y a un proverbe qui vient de chez eux qui dit « Quand les sols seront pollués, que les rivières seront empoisonnées et que l'air sera devenu irrespirable, l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. » Pour moi, ça résume tout. On devrait colloquer certains... Enfin, les grands pétroliers, les grands patrons de compagnies aériennes qui font voler des millions d'avions chaque année, qui vont nous étouffer. La question que je me pose, est-ce que ces gens ont des enfants ?
Mercredi, Patrick Balkany, incarcéré pour fraude fiscale et blanchiment, annonce qu'il souhaite se représenter à la mairie de Levallois depuis sa cellule. Une info qui, immanquablement, fait réagir Nicolas Canteloup.
Bonjour Patrick Balkany.
Oui, bonjour Mme Julie, vous m'entendez là ?
Oui, très bien, très bien.
Oui, bonjour M. Béliard, écoutez, voilà, la prison, je m'en fous, moi je me représente quand même. Hein, je vous le dis, je m'en balèque, hein, comme disent mes camarades de prison. Hein, je suis Patrick Balkany, voilà.
Balkany. Bon, vous voyez diriger une ville depuis votre cellule de prison, vous ?
Oh, ben écoutez, enfin, ouvrez les yeux, c'est Levallois-Perret, ça roule tout seul, vous savez, Levallois, c'est pas la Seine-Saint-Denis. Ni non plus, c'est pas Mayotte. Hein. Vous savez, je pense que c'est plus agréable de diriger le Levallois-Perret depuis la prison que de diriger Roubaix en liberté. Hein.
Eh bien, on embrasse les habitants de Roubaix.
Il est fou, Canteloup. Et puis hier, dans Périscope, Laurent Voulzy nous parle de la sortie de son album live, concert enregistré à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
Quand on est devant, et surtout dans une cathédrale, par exemple, on est modifié.
qu'on soit croyant ou pas, c'est pas cette histoire-là, c'est qu'on est quand même un peu stupéfait de l'endroit. Et donc, les gens qui viennent sont modifiés, le public, et nous-mêmes quand on joue, quoi.
Ah là là, cette anecdote, Marie Galante en Guadeloupe et Belle-Île en mer. Fabien Lecoeuf, vous êtes toujours avec nous. Il y en a sur cette belle histoire.
Je rappelle surtout que Belle-Île en mer, c'est en Bretagne, Marie Galante, c'est en Guadeloupe.
Pour ceux qui cherchent l'office du tourisme, Marie Galante, Belle-Île en mer, au même endroit.
Et c'était la Guadeloupe, c'était bien sûr la terre des parents de Laurent Voulzy. Et, voilà. Et Souchon avait dit à ce propos, j'ai fait cette chanson, c'est Souchon qui est l'auteur du texte de la chanson de Laurent Voulzy, évidemment. Il a dit, lui, Laurent Voulzy a été fabriqué là-bas et élevé ici.
Ah, c'est beau ça. Bon, un compagnonnage incroyable entre les deux, alors qu'ils continuent leur chemin avec leurs enfants respectifs qui continuent
totalement
à s'apprécier aussi.
Et qui ont beaucoup de talent aussi.
Deux dynasties. Allez, encore un petit peu. Merci Fabien Lecoeuvre pour cette petite anecdote à la clé.
C'était le tour de l'actualité de la semaine avec Wendy Bouchard sur Europe 1. À suivre, Un jour une histoire.
Le chanteur Daniel Lévy est l'invité de Philippe Legrand avec dans sa tête une image, un souvenir à nous faire partager au cœur de nos 70 ans d'histoire.
Le grand journal du soir, la suite avec vous, Wendy Bouchard, et les tours du monde en jet privé, TMR, qui nous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Un jour, une histoire, au fond, avec Philippe Legrand, qui chaque samedi reçoit une personnalité qui se souvient avec nous sur Europe 1. On vous écoute. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir Daniel Lévy.
Bonsoir Philippe.
Bienvenue.
Bonsoir à tous.
Sur Europe 1, vous avez choisi cette date, une date historique forte. On est à Washington le 13 septembre 1993. Il est 11h45. Une poignée de main, une signature, un rapprochement, Rabin Arafat.
En effet, c'est une date incroyable, remplie de promesses, d'espoir, de perspectives. Et cette symbolique de cette poignée de main entre un dirigeant israélien et un autre qui est palestinien, et annonciateur de jours meilleurs. Et si vous voulez, ça stigmatise et ça cristallise l'idée qu'on se fait du rapprochement des peuples, du vivre ensemble, de la capacité à se remettre en question, à pardonner, à faire l'effort de pouvoir vivre avec l'autre, quand bien même il est différent, quand bien même il y a des divergences. Israël est un pays extraordinaire, un adolescent de 70 ans qui a accompli des miracles, qui a construit des choses incroyables, un paradis dans le désert. Et en face, un peuple qui est dans la tourmente et qui a du mal à s'extraire d'une fange, un pan de sa population ou de ses dirigeants qui, aujourd'hui, on le sait, ont pris le dessus sur l'OLP à l'époque, puisque c'est le Hamas qui dirige les affaires des Palestiniens. Et le Hamas, c'est pas un mouvement recommandable. À l'époque,
le 13 septembre 1993 à 11h45, vous l'avez dit, Daniel Lévy, il y a cette promesse, il y a cette poignée de main sous les yeux du monde entier. Il y a 3000 personnes à la Maison Blanche, accueillies par Bill Clinton, qui est le président à l'époque, et les caméras du monde entier vont retransmettre cette image. Il y a la promesse, et il y a aussi derrière cette promesse des mariages possibles. On le sait, des histoires d'amour. Vous chantez, vous, l'amour, l'envie d'aimer, entre autres, Daniel Lévy, entre des Israéliens et des Palestiniens.
Ben, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que la concorde, que la paix, que l'harmonie. Et c'est vrai que cette poignée de main entre deux dirigeants, deux militaires, deux chefs de guerre. Et c'est vrai qu'on fait la paix avec son ennemi. On ne fait pas la paix avec quelqu'un avec qui tout va bien. Donc cette démarche-là, elle est belle parce que c'est encore une fois l'abnégation et d'aller vers des promesses de jours meilleurs. Donc c'est un endroit du monde qui me touche particulièrement. Il s'y passe des choses extraordinaires. Je vous invite à aller voir un petit peu tout ce qui s'y passe d'ailleurs, malgré les propagandes quelquefois.
Quelles les tensions qu'on peut ressentir partout. D'ailleurs, il y avait une tension ce jour-là. C'est ce que racontaient les témoins le 13 septembre 1993. Une tension derrière cette poignée de main. Vous vous souvenez du geste?
Tout à fait.
Vous étiez où à ce moment-là?
J'étais devant ma télé à Charenton, je me rappelle. Et j'ai eu un fils qui est né en 93. Et c'était aussi la promesse de belles choses à venir. Et surtout pour l'avenir de nos enfants. L'idée que les peuples autrefois en guerre sont capables de faire cet effort-là, d'aller vers un semblant d'humanité. Alors, bien sûr, tout ce qui se passe dans ce monde, on y est sensible. Et cette poignée de main, quand bien même les accords ont pu passer à la trappe et que malgré tout, les tensions sont revenues, il y a eu cet engagement, il y a eu cette idée qu'on peut faire la paix.
Daniel Lévy, vous qui avez interprété ce Moïse emblématique dans les 10 commandements, comment est-ce que vous regardez cette question de la paix aujourd'hui ?
Ce rôle de Moïse, c'est le rassembleur, le fédérateur, celui qui amène les lois qui sont censées mettre l'être humain dans une bonne direction. Les 10 commandements, c'est un mode d'emploi. Comment se conduire dans la vie ? Et bien sûr que c'est un message de paix absolu. Alors Moïse a été un grand dirigeant. Et que voulez-vous que je vous dise ? Sinon qu'on espère que dans le monde, alors qu'il y a justement une recrudescence des extrémismes, des populismes et de l'antisémitisme, on peut le dire, on a envie de penser qu'il y ait des grands hommes qui soient capables de mettre un terme à l'hégémonie des mauvaises tendances.
Daniel Lévy, c'est pour ça que vous continuez, bien après ces 10 commandements, à chanter encore et toujours l'amour. Le 12 décembre prochain, vous serez à Marseille, au Silo.
Ah oui, vous savez, c'est toujours un grand bonheur de monter sur scène. Après un Olympia où vous étiez et où il s'est passé quelque chose d'incroyable, où j'ai innové un nouveau concept, enfin moi en ce qui me concerne, puisqu'il existe déjà, le fait de partager la scène avec des artistes.
Des amis ?
Des amis. Puisqu'ils m'ont donné beaucoup d'eux-mêmes, avec beaucoup de sincérité.
De tous les horizons, de tous les âges,
absolument.
De toutes les cultures, de toutes les confessions.
Absolument. Ce soir-là, le 12 décembre, particulièrement dans une ville comme Marseille, qui est un melting pot de plusieurs communautés, j'ai été faire une démarche avec, pour une initiative, mon équipe et Sandrine.
Votre épouse ?
Mon épouse, oui, c'est mon épouse, c'est toujours mon épouse. Et donc, j'ai été parmi les écoles, mais les écoles de toute tendance, de toute obédience, aller écouter des enfants, et un peu les auditionner de façon informelle comme ça. C'était surtout pour aller les voir, être en contact de ces enfants merveilleux, là où, encore une fois, existe toute la promesse de choses incroyables. Et l'idée de les rassembler pour chanter avec moi le 12 décembre sur scène, tous ensemble, cette idée me ravit le cœur.
Et cette nouvelle génération, Daniel Lévy, dont vous parlez, qui sera là pour leur transmettre des messages et les entendre chanter. Merci Daniel Lévy d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci Philippe, merci à vous.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR, les tours du monde en jet privé. Inscrivez-vous au 45e tour du monde en jet privé en appelant le 04 91 77 88 99.
On est avec vous, Lionel Rousseau.
Oui, vous
on
êtes
est avec
moi.
Vous, mais oui.
Nous sommes ensemble.
Parce que dans 3 petites minutes après les infos de Sophie Tusson, on vous retrouve pour le sommaire d'Europe 1 Sport, cher Lionel. Alors, au programme,
bon,
vous reviendrez sur le PSG
bien
en
sûr,
versant, quand
bien
même.
Bien sûr,
hein.
Grâce à ces stars avec Neymar et Mbappé qui s'imposent 3-1 alors que Montpellier menait 1-0, c'était à la Mosson.
Oui.
Avec 4 matchs également à suivre à partir de 20h dans notre multiplex Rennes-Angers, Monaco-Amiens, Nice-Metz, Strasbourg-Toulouse. Et puis nos grands débats autour de Lille, autour de l'Olympique Lyonnais et de Memphis. De paille, sa star, beaucoup de choses jusqu'à 23h.
Merci beaucoup, ça sera juste à partir de 20h. Hein. Sophie Tusson reviendra un peu plus tard pour vous informer. Merci beaucoup à Kevin Ousti, Naïma, Ben Sheman, Marlène. Chère Marlène, à demain.
On va se retrouver demain.
À tous ceux qui m'ont aidé à préparer avec la rédaction ce 18-20. Merci Fabien Lecoeuvre pour
à
tout.
Demain.
Demain, vous nous faites rêver un petit peu en musique.
Ah oui, avec le monde merveilleux de Walt Disney.
Ah, ça c'est quelque chose. Et la Reine des Neiges qui cartonne au cinéma. Merci à tous. Portez-vous bien. On se retrouve demain avec un immense plaisir.
Et c'était Wendy Bouchard. We'll be right back.